Bonjour, avant même que ce podcast commence, je sais que vous êtes très nombreux à ne jamais aller sur le blog de la cellule et que vous téléchargez ces podcasts sur iTunes ou d'autres plateformes de téléchargement de podcasts. Alors avant de commencer ce podcast proprement dit sur Sens, j'aimerais d'abord vous faire un petit résumé des différentes actualités qu'il y a eu sur le blog de la cellule ce mois-ci, parce que le blog de la cellule, ça reste aussi une plateforme d'information pour l'indépendance en matière de jeux de rôle. Or, il se trouve que ce mois-ci, il y a eu trois grandes sorties et pour l'indépendance, des choses assez importantes. La première, c'est la sortie de La Saveur du Ciel. Un jeu de rôle qui a pour thème la cuisine, ce qui est plutôt une thématique originale pour le milieu du jeu de rôle. Un jeu de rôle de Fabien Hildwein, dont le but est de réconcilier des personnes autour de la table. Donc c'est un jeu qui se joue à deux joueurs, un cuisinier et quelqu'un qui va déguster ses plats, et on va essayer de faire se réconcilier. Alors, je parle de mémoire hein, parce que je n'ai pas encore joué à ce jeu à l'heure actuelle, donc, et je n'ai pas encore lu le livre, puisque je n'ai pas encore reçu le livre à la maison. Donc là, je parle de mémoire, mais c'est un jeu qui s'inspire un petit peu de, je sais pas si vous connaissez Les Larmes de Dieu ou ce manga sur le pain où les gens font des recettes absolument extraordinaires pour au final se dire des choses à travers des plats et des façons de préparer la cuisine. C'est vraiment ça. Et c'est bien traité. Moi, j'ai vu des gens, alors j'ai pas joué encore une fois personnellement, mais j'ai vu des gens y jouer dans mon jardin à l'occasion de la semaine Sens de l'année passée. Et je peux vous dire qu'ils étaient morts de rire. J'ai même des vidéos que je ne diffuserai pas d'Adrien et de Fabien en train de jouer à ça. Ça avait l'air absolument délicieux, c'est le cas de le dire. L'autre sortie de ce mois-ci, c'est Influenza, le jeu de rôle de Thomas Munier, qui se déroule dans le même univers que celui de Milvaux. Sauf que là où Milvaux est un jeu qui est plus orienté sur, enfin disons que la peur dans Milvaux provient de l'univers, dans Influenza, Pika a essayé de recentrer la peur autour des personnages proprement dit. C'est un jeu, comme il le dit, character-centered, enfin centré autour des personnages que vont incarner les joueurs en gros, et où on va tout de suite au clash, on va tout de suite au conflit. C'est un jeu qui est très très incisif. Alors là pour le coup, j'en parle en connaissance de cause parce qu'on vient d'enregistrer un one shot sur le sujet avec Pika et Flavie. Bon, ceci dit, ce one shot, j'en suis pas très très content. Vous verrez, il sera diffusé le mois prochain. J'en suis pas très satisfait parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que Pika était de passage à Saint-Malo très rapidement, donc on n'a pas vraiment eu le temps de tester le jeu à fond. Donc bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, ce one shot sur Influenza. Mais en tout cas, le jeu est très incisif. On propose de jouer directement des conflits entre les différents personnages. Donc c'est assez intéressant. Je vous invite vraiment à aller faire un tour. Et puis ce qui est intéressant, je trouve, c'est de prendre un univers qu'on connaît déjà, à savoir celui de Milvaux, et d'y faire quelque chose d'autre à travers des mécaniques différentes. Et quelque part, c'est aussi une manière théorique de montrer que le système est important et qu'en fonction du système de jeu qu'on utilise dans le cadre d'un même univers, on obtient vraiment deux jeux différents, voire même finalement deux univers différents. Parce que bien qu'on puisse dire que, on va dire, du point de vue de la fiction et du point de vue de l'histoire, ce qui se passe dans Milvaux et ce qui se passe dans Influenza est identique, on verra que du point de vue de l'histoire, avec un petit H que l'on crée autour de la table, la fiction, eh bien, le système invite à faire des choses différentes, à explorer l'univers de manière différente. Et donc, on peut dire que finalement, l'univers d'Influenza et de Milvaux, même s'ils partagent les mêmes événements chronologiques et historiques, sont finalement très différents. Et c'est vraiment une illustration que le système est important et que le système mater, comme disent les anglo-saxons. Moi, je ne parle pas anglais, très mal en tout cas, je le lis éventuellement, mais bon, bref. Donc, je ne vais pas me risquer à parler anglais dans cette petite phase d'actualité, ça ne sert à rien. Pika propose différents modes d'achat pour Influenza. Alors d'abord, le jeu est totalement gratuit en PDF lorsque sur le site de Thomas, vous pourrez retrouver les références sur le blog de la cellule de toute façon. Le PDF est entièrement gratuit, mais il n'y a pas les illustrations. Si vous voulez acquérir le PDF avec des illustrations, il va falloir faire un don libre à Thomas. Donc il essaye de s'inspirer de la méthode qu'avait employée Frédéric Sintès pour échanger, vendre prosopopée sur Limbic System, c'est-à-dire que vous donnez ce que vous voulez et en échange de votre mail, Thomas vous envoie le PDF. Donc voilà, ça peut être une bonne manière de découvrir le jeu avec ses illustrations. Savoir que Thomas a des inspirations au niveau des illustrations très très glauques, très, enfin, c'est très inspirant pour l'univers de Milvaux, les illustrations choisies par Thomas, de Lara Outsider et tout. Enfin, c'est vraiment très intéressant, donc faut pas passer à côté. D'autre part, alors que Soren vient de rejoindre ce podcast. D'autre part, vous pouvez aussi acquérir le jeu tout simplement en livre, et ça je vous l'invite sur Lulu. De la même manière pour La Saveur du Ciel d'ailleurs. Excusez-moi, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire que La Saveur du Ciel on pouvait l'acquérir sur Lulu. Le livre existe en deux versions pour Influenza. Il y a une version dite Minor et une version normale. La version normale, c'est l'univers. On vous représente l'univers de Milvaux à nouveau. Alors que la version Minor, il n'y a pas l'univers de Milvaux. Donc la version Minor est plutôt faite pour les gens qui ont déjà l'univers, qui ont déjà acheté Milvaux. Et donc du coup, qui n'auraient besoin que du système finalement d'Influenza. D'autre part, la troisième nouvelle et actualité de ce mois-ci, c'est la sortie de La Guerre des Immortels, le deuxième épisode de la vidéo d'introduction de Sens. On a fait deux vidéos avec Valérie, une il y a 2 ans et une cette semaine. Concernant donc l'introduction de Sens Renaissance. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que dans Sens Renaissance, il est dit que le MJ doit lire à ses joueurs tout le background de Sens, qui est très lourd, ça fait une vingtaine de pages en format A5. Donc du coup, il y a une espèce de grande phase de lecture qui est souvent rébarbative. Et donc on s'est dit que c'était beaucoup mieux de présenter cette longue lecture en vidéo. Donc c'est ce qu'on a fait. On a demandé à un acteur assez connu qui s'appelle Benoît Hallman, qui double notamment Baloo dans Super Baloo, Kane dans Legacy of Kane, ou encore Morgan Freeman dans la plupart des films que vous avez pu voir avec Morgan Freeman, de raconter l'histoire de Sens pour les jeunes joueurs qui commencent. Donc c'est une vidéo d'introduction que donc La Guerre des Immortels épisode 1 et épisode 2. Encore une fois, vous trouverez les références sur la cellule. Je vous invite vraiment à aller le voir parce que je sais que parmi les gens qui écoutent les podcasts sur Sens, il y en a qui ne jouent pas à Sens. Eh bien, si vous voulez suivre un peu mieux ces podcasts sur Sens, une bonne solution, c'est d'aller voir tout simplement La Guerre des Immortels, épisode 1 et 2, et vous aurez un résumé de l'histoire globale avec la plupart des grands personnages non joueurs de l'univers. Et donc, vous pourrez comprendre vraiment les podcasts. Je vous invite aussi à télécharger tout simplement le kit d'initiation, dont une refonte paraîtra très bientôt. Quand Valérie se sera un peu reposée de La Guerre des Immortels 2, il refera des illustrations pour le kit d'initiation et on le refera parce qu'il n'est pas actuel, il date, hein, il date quasiment de Sens Renaissance, donc il y a 6-8 ans, c'est très vieux, donc il va falloir le remettre au goût du jour. Mais bref, déjà avec le kit d'initiation et les deux vidéos gratos sur YouTube, vous pouvez déjà vous faire une espèce de corpus Sens qui vous permettra d'écouter sans problème les podcasts sur Sens et éventuellement, qui vous donnera peut-être envie de découvrir le jeu. Donc voilà pour l'actualité de l'indépendance ce mois-ci sur la cellule. Je voulais faire ce petit rappel d'actualité parce que, encore une fois, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne passent pas sur le blog. Donc voilà, vous savez tout. Allez, je vous laisse avec votre podcast du jeudi consacré à la relecture de Sens Renaissance. Vous allez voir, Natacha est venue me cuisiner sur la plupart de mes biais. C'est très intéressant. Allez, à tout de suite.
Bonjour et bienvenue sur le podcast de la cellule, avec aujourd'hui un podcast sur Sens, puisqu'on est le dernier jeudi du mois. Aujourd'hui un podcast avec une invitée qui vient nous faire ses retours sur Sens. Salut Natacha, ça va ?
Salut, oui ça va.
La pêche ?
Un peu fatiguée mais ça va.
D'accord. Également avec nous Adrien.
Bonjour, bonjour.
Ça va Adrien ?
Ça va très bien.
Bon, formidable. Et surtout, dans le box des accusés, monsieur Romaric Briand. Accusé, levez-vous.
Salut Fabien.
Ça va?
Ça va, un petit peu fatigué aussi.
Bon, d'accord, ok. On va faire ce
jugement. Non, mais c'est très bien parce que comme ça, on va être calme, posé, on va pas s'énerver.
Votre avocat commis d'office sera moi-même. Je serai aussi l'avocat de l'accusation.
D'accord, ok.
Donc voilà, il faudra me payer à gauche, à droite.
Ça va être un procès pépère.
C'est pas juste s'il y a les M&M's plus proche de lui.
Justement, vaut mieux
Non, les M&M's, ils sont près du juge. Hein. Bon, alors, Natacha, tu as, me semble-t-il, déjà joué.
Oui, sur la table de Adrien.
D'accord, et tu as joué Renaissance est mort, c'est ça ?
Et néant.
Ah oui, donc tu es complètement à jour sur ce qui est, tout ce qui a été publié jusque-là.
C'est ça.
Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience de joueuse ? Combien de temps ça a duré ?
Alors, j'ai commencé avec deux one-shots différents, avec des joueurs différents. Il faut dire d'abord que ça, c'est le premier jeu de rôle auquel j'ai joué aussi.
Waouh, dis donc.
Et donc deux one-shots de Renaissance. Voilà. D'abord avec des pré-tirés, puis un personnage que j'avais créé moi. Et ensuite, j'ai rejoint la campagne d'une des deux tables de Adrien. Donc, il avait déjà commencé. Donc, j'ai rejoint genre trois scénarios, je crois, avant la fin de Renaissance.
C'était juste après Graveur.
Je tiens à dire qu'avec le nouveau micro, Natacha, t'as une voix superbe. Voilà, c'est tout.
J'en suis pas persuadée, mais.
Non, mais voilà, c'est juste une parenthèse.
Sensuelle. Auditeur, ne fantasmez pas trop.
Voilà. Et donc j'ai fait. Après Graveur, alors je sais plus combien d'épreuves il reste, mais.
Il en restait trois après.
Ouais, j'ai fait, Aqua City.
Oui, Graveur, c'est la moitié.
J'ai fait Ozymandias, Aqua City et.
Ouais, c'est les fragiles, Ozymandias, Aqua City.
Et... Scénario que vous pouvez télécharger sur internet sur le site téléchargement.
C'est pas un scénario du bouquin, mais.
Tout à fait. C'est un scénario d'Adrien.
Ouais, qui sert plus ou moins à remplacer le Seigneur des Fragiles.
D'accord.
T'as pas entamé tout de suite avec Adrien alors. Donc t'as pris une campagne en marche, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord.
Mais Adrien reste le seul et unique MJ de sens que j'ai eu.
D'accord, ok.
T'as jamais joué avec moi ? On n'a pas fait un erreur.
Ah non, si, j'ai fait Sans Sorgone l'année passée.
Ah oui, exact. Mais ça, c'est un scénario dont on parlera une fois que.
La prochaine extension Sans ma bite va bientôt sortir.
Non, mais Sans Sorgone, c'était plus sérieux que.
Non, mais je sais.
que les fantasmes de films pornographiques sur Sens. Salut, s'il y a des auditeurs qui veulent se lancer. Il faut préciser que Sans Sorgone, c'est un scénario effectivement que j'ai écrit et qu'on a joué à la semaine Sens de l'année dernière, donc de l'année 2012. Et on avait convenu un commun accord qu'il fallait attendre que Cosmo soit publié pour sortir Sans Sorgone, pour éviter de mettre des
confusions.
Parce que c'était un truc une vision très personnelle de ça.
Oui, je me souviens même que Romaric n'était pas content que je l'ai joué, mais.
Ah bon ?
Oh oui. Non, enfin... Si, en fait, en gros, t'avais le ressenti que ça allait peut-être lui biaiser un peu l'esprit sur certains éléments qui n'étaient pas...
Ça... Ouais, bon.
Oui, enfin, voilà, c'est très secondaire.
Je suis pas une connerie près. Hein.
Ok, donc t'as joué... Et à partir de Renaissance, t'as joué Mort, et puis Néant...
Et puis Néant, ouais.
D'accord, ok. Et donc, t'as commencé une Renaissance quand ? Enfin, tes premiers scénarios, c'est quand, à peu près ?
Ça fait un an et demi, à peu près.
Ouais, ça fait un
an et demi. Ah, d'accord. Ouais. Donc, en un an et demi, tu t'es fait les trois sens.
Oui, alors en fait, c'est parce que c'est un statut un peu particulier de sortir avec son MJ.
D'accord.
Parce que du coup, forcément, je me retrouve beaucoup plus plongée dans l'univers Sens et la cellule que les joueurs de ma table. Donc, oui. Quand j'arrive dans une pièce, dans la barre, attention, taisez-vous, elle arrive, lui spoilez pas des trucs.
Je me souviens que l'année dernière, il fallait faire super gaffe.
Et donc, j'en avais un peu marre de ça, et donc j'ai dit, ça suffit maintenant, on accélère la campagne. et je les lis parce que j'en ai marre, je veux pouvoir discuter avec vous.
Bien sûr,
voilà. C'est cool.
On a eu le même problème à cette semaine.
Say,
ouais, voilà. Et puis en plus, bon, vous étiez en train de jouer Cosmo. Alors, tu es quelqu'un d'exceptionnel à plus d'un titre.
Peut-être pas exagéré non plus.
En l'occurrence, tu as une très solide formation.
J'ai plus de chat, alors.
En lettres.
Il faut d'ailleurs dire que Natacha vient d'obtenir son CAPES.
Félicitations.
Donc, bravo. À part des auditeurs de la cellule.
Merci.
C'est quand même une belle performance.
Donc, t'as une solide formation en lettres, et c'est notamment à ce... Alors, c'est au double titre de joueuse d'une campagne Sens et de... j'allais dire lettrée, mais lettrée, ça fait... C'est parce que j'ai trop longtemps joué à Warhammer.
Littéraire, moi j'aime bien dire littéraire.
Littéraire, oui, évidemment. En fait, mon premier jeu de rôle, ça a été Warhammer, et je suis beau lettré.
Oui, t'es traumatisé.
Non, c'est vrai. On fera un one-shot un jour sur Warhammer.
Tu vois des gens, tu penses que c'est des trafiquants de cadavres ou des chasseurs de rats.
Alors qu'en fait,
c'est juste
des gens qui ont un capacité en lettres.
Et nous rappelons pour les auditeurs de la série que les Skaven n'existent pas.
Ouais, les Skaven n'existent pas.
Officiellement. Donc, et c'est à ce double
titre. Et puis, je vais peut-être prendre une troisième casquette parce que j'ai fait jouer deux one-shots de Sens en colo.
D'accord.
Donc, avec des joueurs jeunes, mais.
Ok. Mais ben, je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais je pense que ça vaut.
Sens et le Val en colo, il faudra faire des podcasts là-dessus.
Formidable.
Plein de choses à dire.
Et puis bon, comme
ça leur fera plaisir en plus parce que j'aurais fini le blog de l'adresse du blog de la cellule. Donc,
comme tu es proche d'Adrien, c'est rien de le dire. Peut-être aussi que tu as pu beaucoup en discuter avec lui, parce qu'Adrien, je crois, est la deuxième personne qui est le plus dans le secret des dieux, sans avoir été à l'origine de
on
sens.
On en a discuté, mais hélas, vu que c'est un jeu à secret, j'étais obligé de la frustrer.
C'est aussi
énormément,
c'est très très frustrant, ça. C'est sûr. Voilà.
Il faut savoir que Adrien est un des relecteurs principaux de l'univers de sens, un relecteur très 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 précieux, et donc du coup, il sait des choses évidemment.
Si jamais tu passes sous un camion demain, c'est lui qui reprend la suite.
Ah oui, tout à fait. Voilà. Je pense. Enfin,
pas seul. Hein.
En tout cas, ouais, pas seul, mais en tout cas, t'auras, disons, déjà les secrets de base du jeu pour pouvoir.
On en fera un jeu à autorité partagée ensemble.
Ta gueule.
Tout à fait, moi. Non, faut pas le dire à Rome.
Ouais, on est en train de piquer l'interview de Natacha.
C'est n'importe quoi, là. Alors, je propose qu'on commence le match. C'est un match en 3 rounds. Premier round, renaissance. Deuxième round, mort. Troisième round, néant. Et peut-être des prolongations.
Certainement.
C'est un procès, c'est pas un match de foot. Monsieur l'avocat de la.
Oui,
de
mais
la défense,
ça va se régler à Lord Ali.
J'avoue que j'ai vraiment hâte d'entendre ses retours.
Natacha, on t'écoute.
Donc, c'est un podcast qui n'aura absolument pas de plan, puisque je vais suivre les notes que j'ai reprises.
Et c'est très bien.
Surtout sur Renaissance, que j'ai lu, c'est celui que j'ai lu il y a le plus longtemps. Ça fait quelques mois maintenant.
Pas de podcast avec des plans sur la cellule.
Alors, d'abord, j'avais la première note que j'ai prise, c'est une question. Peut-être un point de la philosophie de Wittgenstein que je n'ai pas compris via tes bouquins. Donc, quand tu dis dans Sens Renaissance que personne ne peut concevoir de monde illogique, moi, la première chose à laquelle ça m'a fait penser et que j'ai relevé, c'est est-ce que tu peux intégrer le théâtre de l'absurde, par exemple, dedans ?
Alors, qu'est-ce que le théâtre de l'absurde, Natacha ? Peut-être le rappeler pour les
autres. Un peu plus loin, alors je ne sais plus si c'est dans Renaissance aussi, ou si c'est. Je me demande si c'est pas dans Néant, en fait. C'est explicité en disant que tu peux pas dire que le. La proposition, le chat bleu et rouge, n'a aucun sens. Or, je suis quasiment sûre qu'il y a des citations dans ce genre-là, dans la cantatrice chauve de Ionesco.
Alors, il faut dire quelque chose d'important à ce sujet, c'est que ce n'est pas parce qu'une proposition n'a pas de sens qu'elle ne montre pas certaines choses ou qu'elle ne peut pas provoquer des choses en nous. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, le chat rouge et bleu, ça peut n'avoir aucun sens du point de vue réaliste et du point de vue de l'exposition scientifique des faits ou d'établir une liste de faits exhaustifs, mais par contre ça peut avoir du sens dans un contexte de poésie, d'humoristique, ça peut nous faire sourire, ça peut nous faire rêver,
de philosophie existentielle,
ça peut
que...
voilà exactement
enfin,
ça
j'y reviendrai.
Ça peut, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on dit que des phrases peuvent être insensées ou que tout le monde a nécessairement une structure logique que l'on exclut que l'on puisse s'amuser, rire, chanter, danser, faire de la poésie autour de choses qui n'ont pas de sens. Et d'ailleurs, Wittgenstein est un philosophe du non-sens au sens où il pense que c'est le non-sens qui est le plus important finalement. Justement.
Parce que, alors là, c'est formulé de telle façon qu'on dit personne ne peut concevoir de monde illogique.
Alors, de monde au sens. Wittgensteinien du terme.
D'accord.
Mais par contre, on peut concevoir des poésies logiques, on peut concevoir...
Alors, du peu que je connais de Wittgenstein, qui n'est pas mon philosophe préféré, j'ose faire mon coming out.
Au secours.
Je crois aussi que dans le théâtre de l'absurde, c'est vraiment de l'ordre de questions existentielles qui sont traitées, c'est-à-dire l'absurdité au centre de l'absurdité
un
de l'être
monde,
au monde.
Un monde sans transcendance.
Voilà, c'est ça. Où, la question, enfin, un peu dans le... Oui, les questions à la Nietzsche ou à la Heidegger, qui pour Wittgenstein, enfin que Wittgenstein aborde certainement, mais de manière très détournée, dans la mesure où, c'est-à-dire quand Wittgenstein dit on ne peut pas concevoir de monde illogique, il dit pas on peut pas concevoir de monde absurde au sens existentiel. C'est plus que on avait eu une discussion comme ça une fois avec Romaric, et ça m'a fait tilt. Il disait que Wittgenstein était bourré et puis complètement travaillé par des questions très très existentielles sur la mort, parce qu'il a un de ses frères qui s'est
pas un, quatre.
Quatre de ses frères qui sont suicidés.
Ouais. Et sérieux, les quatre.
Ouais.
Et puis, putain, combo.
Ouais, c'est presque Virgin Suicide là.
Ouais, voilà. C'était impressionnant.
Ouais. Et donc c'est quelqu'un qui a sans doute été et qui est dans sa quête philosophique qui avait besoin de pouvoir trouver des réponses à travers la logique. Et justement quand il dit sur ce dont on peut parler, il faut se taire, c'est une manière de dire en fait les questions existentielles ne peuvent être résolues par la logique.
Il faut bien entendre par monde la définition du mot monde, j'aurais peut-être dû écrire ça monde étoile, tu vois ce que je veux dire, quelque part c'est dans la définition wittgensteinienne qui est donnée dans le Tractatus. Et puis il y en a plein d'autres. On peut faire monde de plein de choses.
C'est-à-dire que quand il dit un... Excuse-moi, vas-y.
Vas-y, mais, non, en fait, là, c'était vraiment parce que c'était une vraie question ouverte. Mmh. Est-ce qu'on peut entendre ça ou est-ce que c'est juste moi qui ai mal compris? Et donc, effectivement, j'avais mal compris.
C'est pas que tu as mal compris, c'est que c'est exprimé
et
dans
et
le
monde. Le monde est biaisé dans ce cas-là.
Et voilà, puis, c'est bon, sûr, c'est des formations professionnelles, voilà, dès qu'on me dit.
ouais, non, mais c'est bien.
Illogique ne veut pas dire absurde ici.
Oui, c'est ça. Après,
illogique ne veut pas dire.
J'avais mis un point d'interrogation dans ma note parce que je me suis fait exactement la même réflexion. Je me suis dit, bon, en même temps, effectivement, absurde, c'est pas illogique.
Tu as vraiment bien résumé la chose. Là, Fabien, je pense.
C'est-à-dire que tu peux pas.
Illogique ne veut pas dire absurde.
C'est-à-dire que tu peux pas.
On va peut-être avancer un peu.
Ouais, moi, l'absurde, c'est ma cam. Ouais,
violon dingue.
Je pourrais en parler des kilomètres. Mmh. Natacha.
La deuxième note.
Adrien.
Okay, on continue. Moi, je suis en train de fouiller les notes de Natacha. Je vois des gros noms, points d'exclamation dans le texte. Le futur est bon. Le fur a l'air bon.
Le.
Sadique.
Et le sadique a de l'initiative.
Allez, oui. Allez. Laissez pas la Natacha un peu, parce que j'ai tellement hâte qu'elle nous donne
sa deuxième note. La deuxième note que j'ai prise est une des grosses critiques de Renaissance que j'aurais à faire, et je te l'ai déjà faite au téléphone, Romaric. C'est que tu fais des notes et des commentaires et de la glose inutile. Donc notamment sur le toit et le... Ça, le toit t'es minuscule, le toit t'es majuscule, et donc il y a une note qui explique, et je dis le lecteur intelligent a compris. Bien sûr. C'est une de mes grosses thèses. Moi je déteste quand un bouquin m'explique
explicite
parce que j'ai l'impression d'être prise pour une idiote. Mmh. Et c'est valable pour plein d'autres choses.
Alors ça, je suis entièrement d'accord avec toi, Natacha. Il faut voir que donc je suis d'accord avec ta critique, je l'accepte et moi-même je la formulerai de mon propre livre à présent. Mais lorsque Sens Renaissance sort, on est en 2007. Et on n'a peut-être pas non plus trop l'habitude de voir des livres comme celui-ci sortir dans le milieu du jeu de rôle. Et donc je veux et j'exige un aspect pédagogique à ce livre. Et autant aujourd'hui on accepterait facilement que le jeu de rôle puisse être considéré comme une œuvre littéraire ou une œuvre d'art, autant je ne suis pas sûr que au tout départ, quand j'ai écrit Sens, c'était le cas. Typiquement, j'ai commencé à écrire ce bouquin en 2001, 2002. Tu vois, en plus, j'avais pas non plus un recul énorme sur les œuvres littéraires, ni une maturité suffisante pour pouvoir savoir ce qui était de trop et ce qui n'était pas de trop. Moi, j'avais besoin de ça.
Ouais, mais tu vois, je trouve qu'il y a une didactique dans Sens Néant qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus agréable. Oui, forcément, t'as pris en maturité entre-temps.
Il est plus récent. Ouais.
Mais du coup, ça, l'équilibrage est déjà plus intéressant. Et je trouve que cette didactique-là, la didactique de Sens Néant aurait suffi dans Sens Renaissance.
Absolument.
Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, cette didactique est aussi liée à la volonté de Sens d'amener des joueurs et même un meneur de jeu au cours d'une réflexion? Et donc, peut-être Renaissance est très accompagnant, très pédagogique. Voilà.
Mais c'est trop pédagogique. Ouais. Il y a des moments où c'est de la pédagogie pour la pédagogie.
La note que j'ai relevée, là, elle répète quasiment ce qui a marqué dans ton texte, en fait. Ouais. Voilà.
Je le vois volontiers et je t'accepte.
Et ça, d'ailleurs, ça rejoint. Ça, ouais, c'est ça. Merci.
Monstre.
Une référence à Sens Mort.
Ça rejoint une autre critique que j'avais pas pris en note, mais qu'est-ce qu'il y a?
Non, rien.
Rien, il me faisait des signes. Il essaye
de me perturber,
de
c'est ça.
Perturber. Continue, Natacha.
Ça rejoint une autre critique sur l'écriture de Sens Renaissance, où donc dans les parties que tu es censé avoir écrites toi, Romaric Briand, et pas Sens qui a écrit, voilà, tu commences en disant nous. Et ça fait vraiment très, je suis vraiment désolée, je suis vraiment très méchante.
Non, mais...
je me suis dit, ça fait vraiment très thèse de philosophie ou dissertation scolaire de philosophie.
Oui, complètement.
Et donc c'est dommage que tu t'affirmes pas en tant que gloseur avec force en disant je, tu vois.
Bah oui, bien sûr, évidemment.
Après, ça peut se justifier dans le sens où tu es déjà devenu un nous.
Non, justement, il faut surtout pas le prendre comme ça. Alors dans ma tête, donc déjà le nous était pour comment dire faire donner un aspect officiel au truc, mais au final je suis d'accord avec toi, ça donne plutôt un aspect dissertationnel et un peu scolaire et donc pas du tout officiel, mais au contraire un peu gamin entre guillemets. Donc c'est raté. Mais ce que je trouvais intéressant et pourquoi je l'ai conservé dans la deuxième édition ce nous, c'est que d'abord j'aime pas couper au montage, donc voilà, tant pis, hein, Sens Renaissance et Sens Renaissance et je ne le réécrirai pas, voilà, il est comme si, il est comme ça, et voilà. Et par contre ce qui est intéressant c'est qu'après dans Sens Mort ça passe au je, côté un petit peu, au départ le commentateur a une certaine prise de recul, ouais. Il est encore dans un milieu, il considère Sens encore dans un cadre universitaire et à partir de Sens Mort il commence à prendre l'œuvre pour lui et c'est là que ça bascule.
Oui c'est vrai.
Comme un personnage de Cthulhu qui se mettrait à découvrir le mythe et qui voilà. au début, c'est académique et après s'en arrache les cheveux.
Voilà, c'est exactement l'effet que ça m'a fait. C'est très troublant d'ailleurs pour un lecteur. Ouais.
Bon, mais je suis d'accord avec toi que c'est scolaire. Et d'ailleurs, le texte, la préface de Sens Renaissance, à part le fameux « il y a des choses », enfin, comment dire, c'est pas ça, c'est « chacun voit dans les choses ce qu'il veut y voir », la préface, soit l'introduction de Sens Renaissance est affreuse. Lorsque je la relis, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur de voir que, je me dis, j'ai écrit ça, mon Dieu, ce que c'est sot. Mais voilà, ça fait partie de l'histoire du jeu et voilà, je vais pas faire comme Husserl, les réécrire trois fois mes bouquins pour les adapter.
Comme dirait Fred, quelqu'un qui dit autant de mal de son propre jeu, ça peut être que Romaric.
Natacha.
On arrive à la première note avec un point d'exclamation, mais c'est pas un non, c'est une réponse. Qui lirait un livre dont il connaît la fin? Bah moi.
Moi.
Voilà.
C'est un problème. En fait, ce que je cherche à dire, c'est que si tu t'enlèves l'aspect découverte, alors il faut remettre la phrase dans son contexte parce que c'est une comparaison avec la vie. C'est-à-dire que si tu savais quand est-ce que tu vas mourir ou comment va se terminer ta vie ou comment va se dérouler ta vie, tes choix et tes prises de décision et tout simplement l'intérêt que tu lui portes serait quand même nettement moindre parce que tu aurais cette sensation d'être déterminé, etc.
Je cherche parce que...
En fait, j'aurais dû mettre « qui se dirait libre dans un livre dont la fin serait déjà écrite ». Voilà ce que j'aurais dû écrire peut-être.
Il y a une reformulation dans Sens Renaissance dans le passage qui est censé avoir été écrit par Solipsis.
Alors justement, ce texte est plus récent. Le texte de Solipsis est plus récent.
Je cherche, est-ce que c'est Sens Renaissance, Ombre Monde,
ouais, c'est
elle
là-dedans.
C'est ça. Et du coup, j'ai pris en note, j'ai mis une meilleure reformulation. Voilà, c'est ça. Donc je cherche.
N'hésite pas à prendre ton temps.
Prends ton temps. Pendant que tu cherches, j'avais une question pour Romaric. Oui. Puisqu'on est en train un peu de faire la généalogie et la genèse de Sens, est-ce que tu peux nous rappeler grosso modo dans quel ordre ces textes ont été écrits?
Alors, le premier Sens a été édité, publié en 2007. Mais les premiers textes de Sens remontent à 2004.
D'accord.
Et ça, c'est Sens Renaissance. Celui qui est sous-titré, si vous avez le bouquin sous les yeux, chers auditeurs, c'est celui qui est sous-titré Le Tremblement de Terre. Celui-ci a été édité en 2007, écrit autour de 2004-2006.
C'est le petit en blanc, c'est ça?
Sens était présenté sous la forme de deux petits livres blancs. Voilà, c'est ça.
Et donc, le deuxième, c'était Ombre Monde, c'est ça?
Voilà, Ombre Monde en 2008. D'accord. Fin 2008.
Donc, le premier Sens Renaissance 2007, Ombre Monde 2008.
Voilà. Sachant qu'en fait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers textes de Sens Renaissance sont un peu antérieurs. C'est-à-dire que l'édition est de 2007, mais les premiers textes datent de 2004.
Oui, il y a aussi les trucs absolument maintenant introuvables, l'immense, avec les personnages manga sur la couverture.
Tout à fait, voilà, ça, il y en a 30 exemplaires à trouver dans le monde. Le monde qui n'est pas illogique. Logique, on le rappelle. Et donc,
si, il est peut-être illogique, mais on n'arrive pas à le penser. Bref.
En tout cas, cette édition à 30 exemplaires est absurde, ça c'est certain. Mais quoi qu'il en soit, en 2007 sort ce petit livre blanc.
D'accord.
Qui prend déjà en considération un nouveau système, etc. Je ne
vais pas confondre avec le petit livre rouge.
Puis bah non, c'est l'opposé.
Puis en 2008, sort Ombre Monde. Et là, par contre, les textes d'Ombre Monde datent de cette période entre 2007 et 2008.
D'accord.
Car nous constatons, avec notamment des gens comme David Gauss, que je salue au passage, que Sens Renaissance est tout à fait insuffisant en tant que petit livre blanc pour être joué tel quel.
D'accord.
Qu'il manque des éléments de background, des conseils sur la manière dont il faut jouer les quadrillas, notamment les quadrillas de Rebirth, et ce genre de choses. Et donc du coup il faut rapidement en un an écrire un supplément pour Sens Renaissance, sinon il me dit que c'est impossible de le maîtriser.
Donc là à ce moment là tu reprends ces deux textes, donc le premier Sens Renaissance et Ombre Monde, tu fusionnes, tu rajoutes du...
ça c'est la deuxième édition,
et donc ça c'est la deuxième édition qui sort en 2010. Ouais. En même temps que Sens Mort.
Absolument, tout à fait. Donc l'édition que vous avez chez vous, probablement, chers auditeurs, c'est probablement l'édition de
la noire,
celle avec voilà le livre noir, avec la couverture magnifique de Valérie Netavong, avec cette espèce de personnage qui apparaît dans les flammes, qui pour moi est Phil Longfinger se battant contre Cranistan à New York. Et voilà, c'est cette édition de Sens Renaissance qui fait aujourd'hui officielle.
Et donc en 2012, c'est Sens Néant.
Absolument.
Ok. Et les textes de Sens Mort, juste pour préciser, ont été écrits un peu avant la publication du Sens Mort Noir, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement. Okay. C'est 2010. Hein, sachant que parmi les textes de Sens Mort, il y en a qui ne sont pas de moi, à savoir l'écriture de certains fragments, notamment celui de Varia, celui de Neo Vegas, du businessman, du réverbère. Tous ces fragments ont été écrits par Flavie. Moi, j'en ai écrit certains. Hein. C'est pas quant aux les idées ont aussi été soufflées par nos parties et par moi-même, mais c'est Flavie qui a fait le nègre. Ça se dit encore comme.
Je préfère la version anglaise du mot.
Ah, c'est quoi, c'est
Ghostwriter.
Ghostwriter. Voilà, c'est ça. Ouais, Flavie est le ghostwriter des fragments. Donc ça c'est quand même assez important à souligner, parce que en fait lorsque j'ai écrit Sens Mort, il y a un moment donné où j'étais particulièrement épuisé par déjà ce que j'avais produit, et puis donc du coup j'ai fait appel à Flavie qui m'a beaucoup aidé sur ces fragments, et en plus elle je trouve qu'elle avait un style qui correspondait assez bien à ce que je voulais.
Voilà. Donc j'ai retrouvé la reformulation par la version de Solipsis. Quel intérêt de lire un livre dont on connaît entièrement le contenu ? Et moi, c'est on connaît entièrement le contenu qui m'a marqué, parce que effectivement, ça marque la nuance entre par exemple le littéraire ou la personne à formation littéraire qui va relire, parce qu'il y trouvera toujours plus d'interprétations, et la personne qui aura trouvé toutes les interprétations possibles et imaginables du bouquin, ce qui, à mon avis, est impossible quand un bouquin est vraiment littéraire, et qui, du coup, n'aura vraiment absolument aucun intérêt à le relire. Mmh. Et ça, voilà, là, c'est vachement plus intéressant de ce point de vue-là. Mmh. Et là, effectivement, quel intérêt de lire un livre dont on connaît la fin, bon, ça peut se comprendre de cette façon-là, quoi.
C'est vraiment une comparaison avec la vie, en fait.
C'est presque la fin, non pas au sens d'achèvement, mais de but, quoi. Si tu connais la... Enfin, bon, là, je parle de la métaphysique, mais si tu connais la totalité des fins d'un objet, tu le connais entièrement.
Mmh. Il y a un peu cette idée-là chez Wittgenstein que connaître un objet, c'est connaître l'ensemble de... Enfin, connaître un objet de façon parfaite, c'est connaître l'ensemble de ses possibilités combinatoires, et donc l'ensemble des lieux où il peut apparaître, l'ensemble des objectifs qu'il peut remplir, etc., l'ensemble de toutes ses propriétés. Et si tu connais un livre de cette façon-là, eh bien, ma foi, il n'y a plus aucune raison de le lire. Et d'ailleurs, ça n'a même plus aucun sens de le lire. Mais bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette comparaison. Et effectivement, elle est très mal formulée au début du bouquin, hein, Natacha, bien vu. Ouais.
Mais après, Classis la reformule pas très bien dans Sens Néant non plus. Hein.
C'est le round 3, ça. Hein.
Voilà, pour le moment, on vient seulement de s'échauffer.
La finalité de Classis est peut-être différente. Et Classis a un rapport au livre qui n'est pas le tien, Natacha,
oui,
je pense.
C'est vrai.
La
note suivante est une première question méta, donc c'est complètement ouvert et tu n'es pas obligé de répondre, puisque ça se trouvera des réponses dans Cosmo. Une note sur les runes de sens et sur les deux significations des runes, donc les livres de sens et les points de vue sur le cadran. Et donc je me suis demandé du coup si les ordinateurs Cosmo et Rebirth, c'est les futurs,
j'aime bien les appeler machines.
Bon, les machines, pardon. Les machines étaient alors, à ce moment-là, les livres de sens ou leur interprétation ?
Ça, je n'en dirais Rien pour le moment.
Et je me suis même demandé, bon, après Adrien m'a dit non, mais je me suis même demandé si en fait les machines qu'on allait éventuellement avoir à éteindre, ce serait pas des livres à brûler en fait.
Ouh, joli. J'avais jamais fait le.
On verra.
Le parallèle, mais
nous verrons.
Je le trouve très beau.
Adrien qui a déjà fait Sans Cosmo, sourire collé sur les lèvres.
Donc voilà. Bah...
Et après Sans Cosmo. Et comme,
il me semble d'ailleurs que la phrase de Primo Levi, quand on commence par brûler les livres, on finit par brûler les hommes, est citée dans Sens, en plus.
Oui, je l'ai trouvé, et je sais que si c'est le cas, ça posera beaucoup de problèmes à mon personnage, en plus. Mmh. Mais, voilà. Ça pourrait être intéressant. En tout cas,
c'est. Vachement, je trouve vachement intéressant comme idée.
Je m'aperçois que je m'étais fait la réflexion dès Renaissance que, les points de lien avaient de l'importance dans le sens où elles permettaient de dépasser la limitation d'une rune. Mmh. Et à ce, avant de lire... voilà. Oui.
Bon. Sous-entendu, c'est bien, t'avais pensé à la suite de ton bouquin quand t'as écrit le premier.
Non, mais c'est ce qui fait qu'on voit la richesse d'un livre. Hein,
Crois-moi, c'est cohérent. Et j'en ai chié. J'en ai vraiment chié pour écrire ces livres.
Ça. Et c'est pas fini.
Ouais. Pleurer des larmes de sang, comme dit souvent Adrien.
C'est ça.
Alors, une question de système de jeu et de système pour les meneurs de jeu. Donc, sur l'ignorance des cellulistes qui donnent leur liberté. Mmh. Et moi, je me suis dit, les deux premières parties de Sens où j'avais été très frustrée par mes personnages et parce que j'avais pas très bien compris le système de jeu. Je me suis demandé si il faudrait pas que je leur explique, j'explique à mes joueurs avant la création des personnages la signification de chacune des runes. Mmh. Et du coup, ça serait limiter leur liberté, mais en même temps, ça serait éviter justement la frustration que moi j'ai ressentie. À chaque fois, j'avais des personnages qui avaient beaucoup en vie, peu en mort, et du coup, dans les combats, je
Qu'est-ce que c'est la signification des runes?
Bah, comment c'est utilisé en jeu? De dire comment vous pouvez les utiliser en combat. Si vous avez plus de vie, vous pourrez faire des personnages qui vont chercher plus à protéger leurs camarades que.
Je suis surpris parce que même si les runes restent à interpréter, il me semble qu'un des rôles du meneur, c'est quand même d'en donner la première interprétation au départ. Il me semble que c'est précisé dans la base. Que au moment de la création du personnage, le meneur doit bien expliquer ce que sont les runes.
Du coup, je me suis reprise un peu plus tard.
Ce que je voulais dire, c'est que le meneur n'a pas l'interprétation finale. Mais il doit initier la recherche et initier en posant au départ des gros clichés.
Ce que je fais en général, là, pour ma défense. Hein. Je suis passé au statut d'accusé maintenant, là, tout d'un coup.
Ça, c'est bon, ça. Tiens.
Pour c'est une un fois gros rebondissement.
Exactement.
Si les missiles peuvent comme ça dévier de temps en temps, ça peut être cool.
Bah, qui sont ces missiles qui sifflent sur nos têtes?
Natacha.
Alors, une note sur la description initiale de l'univers quand on fait la première partie de Sens avec des joueurs, qui m'est venue après avoir fait quelques interscénars de Néant où Classis explique son passé, tout ça. Une question sur la chronologie. La découverte des runes se fait-elle avant ou après la création du Nero? Parce que dans Sens Renaissance et dans la description de l'univers, c'est dit que ça se fait après, me semble-t-il.
Ouais, ça fait partie des contradictions dans le livre.
Et voilà. Et donc, est-ce que c'est une contradiction volontaire pour pas que les joueurs le sachent?
Non, c'est pas volontaire. C'est juste que, c'est vachement technique. Et du coup, j'aurais dû préparer quelque chose parce que par rapport au Nero, c'est-à-dire que il me semble que dans Sens Néant, il est précisé que le Nero, c'est le nouvel empire représentatif Omicron créé par Bran Oberon à la suite de son projet de démocratisation de l'empire d'Alpha Oberon. En gros, il veut remettre de la démocratie. Alors qu'au début, dans Sens Renaissance, je considérais que le Nero, c'était un nom générique pour parler de l'empire. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, je lui donne dans Sens. J'avais pas prévu dans Sens Renaissance de lui donner cette fonction particulière que je lui ai donnée dans Sens Néant. Donc c'est fort probable qu'il y ait des. C'est possible. Je dis pas que c'est.
Contradictions. J'avais déjà posé la question à Adrien qui m'avait dit effectivement il y a une incohérence là.
Ouais, il y a une incohérence, tout à fait, absolument. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, dans Sens, encore une fois, je répète, dans Sens Renaissance, le Nero, c'est l'empire en règle générale, qui a été, c'est le système politique de l'empire en général. Et dans Sens Néant, j'en ai fait la réponse démocratique apportée par Bran à l'empire tyrannique créé par Alpha Oberon. Donc du coup, oui, il peut y avoir des, par rapport à la date de création du Nero, il peut y avoir effectivement des.
Avant, il y avait l'ancien empire pas représentatif au micron.
Ouais, c'est ça en fait. Hein. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que c'était avant que Bran Oberon entame les réformes de démocratisation, il n'y avait pas de chancelier à la chambre et en fait les décisions étaient uniquement prises par l'empereur. Alors qu'en en faisant un chancelier suprême comme il l'a fait, on se retrouve dans un parlement dans lequel le chancelier peut changer et donc une instauration de la démocratie. Le fait est que le premier chancelier ce sera Miphos Kadria et que comme vous en doutez, le chancelier ne changera jamais, jamais.
Et lui
jamais.
À vie.
Jamais.
Pour un immortel,
c'est une erreur juste... survenue dans la description.
Il se fera juste déposséder de son pouvoir, en fait.
Une petite note au passage, quand tu dis que Miphos est... Quoi ?
Non, il y a Adrien qui faisait une danse du Miphos pour célébrer Miphos. Ne te laisse pas décourager. Vas-y, Natacha.
Quand tu dis que Miphos est adulé parce que c'est un pianiste à succès, tout ça, et donc il y a déjà cet aspect hyper médiatique de la société sélénite. Voilà, donc je trouvais ça intéressant. Une contradiction entre la description papier et celle qui est faite dans La Guerre des Immortels.
Oh. Bam.
C'est possible.
Donc. Me semble-t-il, hein, dans le texte, c'est marqué que la menace, dans le texte de la description, la menace du blocus terrestre n'est pas transmise aux Sélénites et aux Martiens. Et dans La Guerre des Immortels, c'est dit que les nobles de Séléné tremblent justement sous cette.
Ah oui, les nobles. Alors, s'il y a contradiction, c'est que c'est juste que je voulais dire que les nobles sont informés, mais que la masse. D'accord. N'est pas au courant.
D'accord. Ouais. Okay.
Voilà. Mais ça m'étonne que.
Là, c'est marqué texto. La menace du blocus terrestre n'est pas relayée. Dans La Guerre des Immortels, c'est dit.
N'est pas relayée. Oui. Alors là, oui. Ah, d'accord. Oui, je vois très bien. Alors, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est par rapport à la masse. N'est pas relayée médiatiquement
d'accord.
à la masse.
D'accord.
Mais les nobles savent très bien ce qui se passe. Évidemment, ils doivent prendre des décisions politiques par rapport à ça, et ils se sont les premiers mis au courant. D'ailleurs, c'est peut-être une erreur de la résistance terrienne de ne pas avoir fait la promotion de leur menace au bon endroit. Ils pensent, en attaquant le Parlement, faire un maximum de publicité, alors qu'en fait, le Parlement est déjà tenu par un tyran qui, évidemment, étouffe complètement cette menace de blocus. Au final, les terriens auraient dû faire la menace de blocus dans la rue, en fait, et en parler dans la rue, plutôt que d'en parler au Parlement.
D'accord.
Natacha.
Petite note pour l'écriture, en termes de graphisme et d'orthographe. Effectivement, il n'y a pas que sens qui est mal présenté, donc le sens en termes de titre de bouquin. Je te l'ai déjà dit, Romaric, que selon les codes de typographie, quand c'est tapé, il faut que ce soit juste mis en italique et pas entre guillemets.
D'accord, donc
les titres des œuvres
doivent être en italique et ne jamais être mise entre guillemets.
Voilà. Et là, pour le Tractatus Logico-Philosophicus, qui est aussi un titre de livre, il n'est pas ni souligné, ni mis entre guillemets, ni mis en italique, et il aurait fallu le faire, je pense.
Très bien. Donc ça, c'est aussi une note pour les créateurs en herbe qui nous écoutent. Ouais. Voilà, c'est ça.
Bon, c'est, tu m'as demandé de faire des retours sur les
questions. C'est génial. Non, mais je pense que ça, honnêtement.
Après, je trouve pas ça forcément très utile, mais.
Ah si, je suis sûr qu'il y a des tas d'auditeurs qui nous écoutent qui ont des projets de jeu en tête et dont ces remarques, pour lesquelles ces remarques typographiques seront du plus grand intérêt. Vraiment.
Confère vos cours de lycée. Hein.
Oui, alors attention. Parce que c'est pas si évident. Par exemple, nous, au lycée, on ne faisait pas des cours sur comment le présenter dans des bouquins. On faisait des cours sur comment les présenter dans des dissertations et
oui,
au bac.
Oui, parce que... Alors, effectivement,
attention.
Souligner
les œuvres. Il fallait souligner les œuvres.
Oui, parce que tu écrivais... Oui, bah, moi, voilà. On n'a pas tant de différence d'âge que ça. Et moi, on m'a toujours dit...
Voilà. En l'occurrence, tu sais quoi ? Pour Sens Renaissance, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Pour toutes les notes typographiques et pour toutes les présentations, etc., pour tout le graphisme, j'ai pris deux livres de référence. Dont je ne me souviens plus exactement lesquels d'ailleurs. Et j'ai pris ces deux livres et j'ai regardé comment c'était fait chez eux. Et j'ai fait la même chose. Donc ça veut dire que si cette erreur-là, elle est dans le livre, c'est qu'en fait, elle est héritée d'une erreur d'un autre bouquin. Donc moi, je pense que tous les livres ne sont pas... Ces règles, elles datent d'où, elles viennent d'où Qui les a...
Moi, je sais pas la première fois que je les entends, moi aussi.
Romaric répond à la critique par un détournement.
Non, je réponds pas. Je cherche pas du tout à me justifier là-dessus. Je fais une erreur.
Je voulais dire que je trouvais ça passionnant, même si ça peut sembler pointilleux.
Oui, c'est ça. C'est ce que je crains. C'est que.
Non, c'est très bien. Je voulais dire que je trouve ton intervention passionnante parce que. J'ai beaucoup d'admiration. Bon, j'ai de manière générale beaucoup d'admiration pour les gens qui sont capables de faire l'exégèse comme ça d'un livre et de vraiment aller jusqu'au bout du texte, de chaque implication, de chaque formule. Parce que j'ai personnellement une lecture en général beaucoup plus synthétique et rapide et moins analytique. Et je trouve ça formidable d'avoir des compétences comme ça à comment dire au service d'une œuvre de jeu de rôle. Tu vois, c'est-à-dire que tu as la même exigence envers Sens que tu peux l'avoir envers, je sais pas.
C'est déjà une. Proust, tu sais, Natacha, c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais par rapport au, quand je disais oui, tu me dis je fais trop de pédagogie, parce que moi en fait ce livre n'était pas destiné à un public comme le tien, il n'était pas destiné à un public littéraire, il était destiné à un public de joueurs. C'est un jeu. Il faut se rappeler que c'est un jeu de société. Et on n'attend pas d'un jeu de société la même chose que d'une œuvre littéraire. Si j'avais publié ça, alors bon, c'est faux parce que en fait, c'est vrai que j'avais déjà considéré mon jeu comme une œuvre littéraire un petit peu. Mais c'est vrai que tu as une attitude très saine par rapport à ça. Tu ne t'en rends pas compte, mais ce petit côté, je prends le livre de jeu de rôle comme une œuvre en fait de littérature. Eh ben, en fait, quand on fait le tour des rôlistes qui nous entourent, eh ben, ils sont pas si nombreux à le faire comme ça de façon spontanée, tu vois. Et puis pour toi, ça semble aller de soi.
Et si on pense à des questions comme l'avenir du jeu de rôle, on a besoin, à la fois pour nous prendre nous-mêmes au sérieux, pour aller jusqu'au bout de l'écriture de nos jeux de rôle, d'avoir des critiques comme toi qui vont être impitoyable, très très analytique, très précise.
Absolument.
Et je trouve que à partir du moment où on aura des gens comme toi qui seront, enfin, j'espère que tu es la première d'une longue cohorte de gens qui vont critiquer comme ça à fond les jeux de rôle, parce que ça nous fera tous grandir.
Après, c'est peut-être simplement parce que vous connaissez pas beaucoup de rôlistes avec une formation littéraire.
Ben oui, mais c'est exactement ça le problème.
Ouais, mais enfin, je suis persuadée que moi, par exemple, dans les jeunes que j'ai en colo, il y en a certains qui se destinent à des études littéraires et qui vont finir par faire ce. Et...
Considérer l'œuvre de. Enfin, non, c'est pas ça. Considérer un jeu de rôle comme une œuvre littéraire, Natacha, c'est énorme. Tu te rends pas compte en fait, parce que comme tu disais, Sens, c'est ton premier jeu, c'est voilà, tu débarques un peu dans le truc. Mais tu te rends pas compte en fait, c'est pas un acte de militantisme, mais c'est pas loin.
Si c'est un acte de militantisme, parce que ça dit.
Bon d'accord, je voulais pas le dire, mais Fabien.
C'est une œuvre qui a de la, c'est une œuvre qui a de la qualité. Mais on va revenir. Là, on est en train de faire le méta podcast.
Ouais.
Je suggère qu'on revienne au podcast soi-même. Mais disons que c'est bien d'expliquer aux auditeurs le fond de cette démarche ou de ce podcast.
Un petit Fisherman, Fabien.
Ah mais oui, avec plaisir, mon cher Romaric.
Donc on est dans le méta.
Ah ben écoute, pareil. Hein.
Un petit Adrien, un petit Fisherman.
Franchement, j'aimerais pas imposer mon haleine aux auditeurs.
Natacha, un petit Fisherman.
Allez, je sais pas si on arrive à parler avec, mais
toujours la publicité pour Fisherman dans la série.
Si Fisherman un jour veut nous sponsoriser, qu'il n'hésite pas à contacter
d'ailleurs,
la série.
Si Fisherman veut venir faire un podcast, on est tous partants. Hein.
On est en train de vendre notre cul comme des ouf. Bon, allez, Natacha.
Une note sur le discours de Solipsis à propos de la respiroïde quand elle la donne aux bugs. Ah oui, il faudra revenir sur lui. Il et elle pour Solipsis. Mais je suis beaucoup moins méchante que ce à quoi tu t'attendais.
Ah bon.
Oui, elle dit vous êtes responsable derrière ce masque, ne l'oubliez jamais. Donc derrière le masque de la respiroïde. Et donc je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, ça fait un parallèle avec le masque des traîtres dans Néant.
Oh là. Comme vous y allez.
Mais non, voilà, c'est juste une petite note.
Alors, je vais t'expliquer toute la genèse, c'est qu'à l'époque, l'acide de Sens Néant ne s'appelle pas l'acide, elle s'appelle le masque. Et donc, c'est pas un hasard. En fait, c'est une référence déjà. À l'époque, on appelle ça le masque. En 2004, quand le jeu est écrit, Said, Fly, etc., qui vont tester Sens Néant, vont appeler plus tard ça le masque. Donc c'est pour ça. Voilà. Bon. Puis ça fait référence aussi au masque du Kabuki. Parce que Sonic Fist ne s'adresse pas qu'aux joueurs. Dans ce...
Et non, je pense que là, justement, il s'adresse aussi aux lecteurs.
Absolument.
L'explication. Alors, donc, sur l'explication, qu'est-ce que l'ombre monde ? Donc c'est, j'ai trouvé intéressant effectivement, bah, tout de suite il y a déjà l'idée que vu que l'amour est invisible, c'est pas possible de, enfin c'est voilà, ça peut pas se refléter dans l'ombre monde.
L'ombre monde est la totalité des faits, et puisque l'amour mais ça on le retrouve également, tu sais, dans la présentation du petit programme avant la description du background. Il y a certaines notions comme le bien, le mal, etc., qui sont jugées insensées et qui donc ne font pas partie des faits par conséquent. Et donc voilà, on ne peut pas y trouver effectivement trace dans l'ombre monde puisque l'ombre monde est la totalité des faits.
C'est-à-dire que oui, l'amour fait partie de ce dont on ne peut parler.
Voilà, absolument.
Ah. Et puisque puisqu'on ne peut en parler, il faut le taire.
L'amour est peut-être un fait complexe.
Peut-être. Un métafait.
Une phrase que je n'ai pas comprise et que tu vas peut-être pouvoir m'expliquer, mais là c'est vraiment parce que je n'ai pas comprise et parce que je ne connais pas du tout la référence. Dans l'ombre monde, elle s'adresse donc au... Je suis désolée pour les auditeurs, j'ai un champignon dans la bouche. Dans l'ombre monde, Solipi s'adresse aux Bugs et dit « Vos vies ici ne valent pas plus lourd que celles d'un singe dans la paume du Bouddha. »
Ça vient de Saint-Séya.
Et c'est même une vieille légende chinoise, il me semble.
Tout à fait.
Il y a de fortes chances, mais c'est une culture que malheureusement je ne connais pas du tout.
C'est l'histoire d'un. C'est pas l'histoire de ce singe qui.
C'est l'histoire de Sangoku.
Qui court jusqu'au bout de l'univers.
Voilà.
Et encore, il court. Et il a fait il a traversé les galaxies, tout ça. Mmh. Et il a simplement traversé la paume de Bouddha.
Tout à fait.
Sangoku court sur le dos du dragon, là, qu'on l'attend pendant 28 épisodes.
C'est ça.
Pas le même Sangoku. Ouais.
Exactement.
Mais voilà, c'est à la base, c'est une référence que j'ai trouvée dans Saint Seiya, puis ensuite fait des recherches sur la légende de Sangoku. Mais à la base, c'est Shaka qui dit ça à Phoenix pendant son combat. Et attends, c'est important. Parce qu'en fait, ce combat de Phoenix contre Shaka est vraiment une des sources d'inspiration principales de Sens. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce combat ? Il se trouve que les chevaliers arrivent devant Shaka qui ferme les yeux. Et pourquoi il ferme les yeux ? Il ferme les yeux pour intensifier ses autres sens, comme un aveugle qui se coupe d'une sensation pour pallier son infirmité. Et non, mais Adrien, je te vois dire que c'est très important.
Le fait que l'aveugle se coupe d'une sensation pour.
C'est pas volontaire.
C'est pas volontaire. Excuse-moi. Excuse-moi. Je pensais à Shaka quand je dis ça, parce que lui, il le fait de façon volontaire. Il s'est entraîné toute sa vie, c'est-à-dire à les yeux fermés pour intensifier ses autres sens. Donc voilà, et ce qu'il fait, c'est qu'il prive son attaque spéciale, parce que les chevaliers sont toujours très très cons, ils utilisent des attaques spéciales qui se retournent tôt ou tard contre eux. Son attaque spéciale prive un à un les sens de son adversaire, donc la vue, l'odorat, etc. Et donc le phénix, Iki, se fait couper tous les sens, et il ne lui reste plus qu'un seul, le septième sens, le cosmos en fait, qu'il va donc sublimer, et c'est comme ça qu'il va réussir à vaincre son adversaire. Mais en fait, c'est déjà. Pour moi, cette idée que plus on se limite, plus par ailleurs les capacités tendent à l'infini, qu'on retrouve également chez Stefan Zweig dans Le Joueur d'échecs, c'est une idée qui me hante et qui hante tout l'univers de Sens, en fait. Donc c'est plus important. Il faut arrêter de sourire quand je parle de Saint Seiya, parce que c'est...
On ne peut pas s'en empêcher.
Oui, peut-être, mais c'est
important. Non, mais
c'est,
ça a compté, c'est important, c'est vrai. Je suis d'accord.
Et je vous rappelle que Sens Renaissance... En 2004.
On sourit de la même manière que quand moi je parle de Nietzsche. Oui, non, tout le monde sourit. Ou que je ramène le féminisme sur la table. Quoi.
Mais tu te rends compte que
chacun ses passions.
Oui, comme le disait Fred quand la vidéo sur le Val de Trick Track est sortie, je fais encore à nouveau les deux choses que je parle mal de mon jeu. Et
je
dis du mal de mon jeu et je parle de Saint Seiya. Donc
tu fais
bien remarque brillant.
Tu fais des blagues.
Je profite de tomber sur une illustration de Valérie Netavong pour dire que effectivement c'est très agréable de découvrir le livre et les illustrations qu'on n'avait pas vues, voilà.
Bah oui.
Donc notamment, bah ça sera plus prégnant dans Sens Mort parce que c'est celle que j'avais le moins vue. Et il y a celle que t'as mis pour le podcast sur le tragique que je trouve absolument magnifique. C'est ma préférée, celle du couple de Sens Mort, voilà. Alors, dans l'épreuve de graveur. Donc il y a la description faite par donc Sens au MJ et au lecteur de la Nouvelle-York. Et donc il dit les survivants sont cachés dans le métro et survivent grâce à des raids dans les supermarchés en ruine. Il y a peut-être un bug parmi eux. Je ne peux pas te, avec un T majuscule, le dire. Et je me suis dit, ça c'est une première raison pour le lecteur de ne pas faire confiance à Sens. Soit il ne sait pas tout, donc c'est une grosse lacune pour quelqu'un qui se prétend omniscient. Soit il ne veut pas, entre parenthèses, encore le dire et il ne veut pas que ça se sache. Ou voilà.
Soit le bug échappe vraiment à son contrôle.
Voilà, c'est ça. Alors l'histoire... Allez, on raconte l'histoire. Allez, on est dans la genèse. L'histoire, c'est qu'il y a un bug dans les métros de New York qui s'appelle U-Like, qui n'a pas été détecté par la résistance ou qui n'a pas été trouvé. Et on en trouve les traces dans cette version à 30 exemplaires dont on parlait avec Fabien tout à l'heure. C'est un bug que les personnages rencontraient dans le premier scénario. Et comme Sens Renaissance, à la base, moi, je ne pensais pas du tout que ça aurait le succès que ça a. Eh bien, c'est vrai que c'était quand même un livre qui était écrit un peu pour mes potes. Et en fait, ça, c'est un clin d'œil à U-Like, qui est donc le bug, un des bugs qui est présent à la Nouvelle-York. Voilà. D'accord. Mais du coup, en tant que Sens, je ne peux pas te le dire, parce que je ne sais pas où sont les bugs.
Pour un auteur, ou en tout cas un jeu qui s'adresse à un tu et qui lui dit « Fais-moi confiance, viens, je vais t'accompagner, machin, tout ça », c'est...
C'est perturbant.
Ouais.
Mais bon, voilà, il peut lui dire beaucoup de choses, mais il ne peut pas lui dire ce que seront les bugs. Du moins, pas avant Sens Mort, où il prendra l'âme.
Sous sa coupe.
Voilà, il prendra l'âme, puis l'âme du lecteur aussi pour en savoir plus. En fait, c'est toute l'histoire de l'incarnation. On trouve cette thématique aussi dans le livre quand je parle de la religion judéo-chrétienne et du catholicisme en général, avec la figure du Christ, en fait, où je dis en gros que si Dieu a fait un Christ, c'est parce qu'il ne savait plus où les hommes en étaient. Donc, parce que, étant la totalité des faits, il a tout le monde en vue, mais il ne sait pas où les hommes en sont du point de vue du temps. Donc, il a besoin de s'incarner dans la peau d'un homme, à savoir dans le Christ, pour mieux les comprendre et savoir où ils en sont en termes de temporalité. Et dans Sens Mort, il y a exactement le même phénomène. Sens ne sait plus où le jeu en est, il ne sait plus où les gens en sont, donc il décide de s'incarner, et là, sous les traits de l'aiguilleur, il commence à comprendre un peu mieux, c'est ça, un petit peu mieux ce qu'il en est.
Je me suis demandé dans la description du Caire si ce serait expliqué, comme tu l'as promis, que tout serait expliqué.
Oui. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de contexte?
Ouais, parce que donc, j'ai du mal à comprendre. Dans l'épreuve des fragiles, lorsque les bugs sortent du bâtiment, ils découvrent la cité du Caire totalement engloutie. Le temple semble s'être arrêté subitement. Les voitures sont restées à leur place d'origine. Les routes sont presque intactes. Les monuments silencieux. Comment un cataclysme, j'arrive pas à lire, ça m'énerve, a-t-il pu laisser une ville si intacte? Que s'est-il vraiment passé au Caire? Voilà, j'ai mis deux points d'interrogation dans la marge.
En tout cas, on en saura plus sur cette cité. Là, on l'aperçoit. En fait, on l'aperçoit dans Sens Renaissance, mais on sera amené dans la suite à parler un peu de cette cité. Mais on ne sait pas s'il y aura une explication. Officiel, on va dire, de ce qui s'est passé là-bas et pourquoi le temps ainsi semble s'être arrêté. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on jouera encore au Caire. Il y a des personnages importants dans cette partie de l'Afrique. Fabien vient de tilter.
Oui.
On va en arriver donc à Solif 6, homme ou femme. Je pense que le faisant jouer à la rentrée, enfin commençant une campagne à la rentrée, je vais faire jouer directement sous les traits d'un personnage féminin. Mais parce que c'est vraiment mon interprétation du personnage de Solif 6. Oui. Et je trouve qu'au final, la révélation, alors même si la révélation en termes d'écriture et de prise de parole du personnage est mal amenée, mais le fait qu'elle se soit fait passer pour un homme est justifié. Et donc, c'est pas si... J'irai pas jusqu'à une critique absolue de ça.
C'est mal amené. Mais tu as tout résumé. Hein. Ça pourrait être justifié, ça pourrait être intéressant, mais c'est mal amené, ça tombe comme un cheveu sur la soupe.
Enfin, c'est ça.
Je suis d'accord avec toi.
Et donc, ce qui me fait dire ça, c'est que avant cette révélation-là, il y a donc une phrase sur les fragiles. Solipsis semble enthousiaste. Et alors, je me suis dit, est-ce que dans une éventuelle réédition, ça serait, c'est énorme hein, comme tâche et comme et je pense que c'est pas possible en fait. Mais est-ce que tu pourrais pas utiliser juste des adjectifs neutres? Donc en termes techniques et prout-prout, on appelle ça épicène. Mmh. Où on ne fait pas la différence entre le masculin et le féminin.
Comme enthousiaste.
Voilà.
D'accord.
Ce serait une tâche titanesque.
C'est sûr, c'est sûr.
T'aurais pu faire ça pour Sens Néant, vu que
oui.
Sexe, homme, ouais. Femme.
Ouais, mais
je crois que ça a été la question d'ailleurs.
Sens Néant a été à ce niveau, au niveau des genres. Une vraie interrogation de fond. Il y a eu plein de questions. Je me suis même posé la question de savoir si je n'allais pas inventer un nouveau pronom personnel ou utiliser un pronom personnel déjà existant, neutre, etc.
Il y a des travaux qui existent là-dessus.
Absolument, ouais, je sais bien,
Fabien.
Il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà. C'était... Non, c'est... En fait, je pense que je vais prendre le parti de ne pas les réécrire. Tu sais pourquoi ? Parce que je suis beaucoup plus content que ces livres soient imparfaits, qu'on fasse des podcasts dessus, qu'on puisse expliquer tout ce qu'on est en train d'expliquer là, qu'on puisse patcher comme ça le jeu de façon vivante. Ça me tient beaucoup plus à cœur et je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'une œuvre finale, parfaite et arrêtée. J'adore le fait qu'on en parle comme ça et qu'on puisse revenir comme ça dans ce sens. Ça me fait très, 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 très plaisir. Et donc, je préfère au final qu'il y ait plein de... Limite, tu vois... Dans Cosmo, je mettrais bien 2-3 erreurs, histoire qu'on puisse en parler un peu.
Bon, enfin voilà, c'était aussi, aussi pour aborder l'androgynie de Solipsis.
Bien sûr. Non, mais je suis de plus en plus convaincu qu'il faut commencer tout de suite par la présenter comme une femme.
En 2004, quand Romain a commencé à écrire Sens, il se disait « Je vais laisser des fautes, comme ça on pourra faire un podcast.
» Non, pas du tout, mais au final, je suis bien content.
Alors justement, écriture. Je vais te citer ma directrice de mémoire quand elle corrigeait mon mémoire. Voilà, elle m'a dit texto « Quand vous relirez, vous supprimerez tous les doncs, parce qu'on a toujours tendance à en mettre trop. » Et donc, voilà. Et effectivement, il y a une phrase dans. Un petit paragraphe dans Sens Renaissance où tu en utilises deux d'affilée. Voilà. Faire attention quand on
est-ce
écrit.
Que c'est pas un truc de logicien, ça? Parce que les logiciens adorent ce genre
oui, sans doute.
C'est une déformation professionnelle.
En fait, logicien, dès qu'on fait des sciences, on a une tendance à aller de raisonner de façon déductive, à faire ça, donc ça. Et.
Autre remarque qui va me paraître beaucoup plus intéressante, parce que là, ça va parler aussi d'interprétation de l'univers. Les noms de peuples et les noms d'origine ou de nationalité, tout ça, quand tu dis les Français, par exemple, il faut toujours mettre une majuscule.
Ah.
Et ça devient particulièrement intéressant quand on parle des Sétantras. Il n'y a aucune majuscule, je crois. C'est, tu vois le problème des majuscules, Fabien, dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a aucune majuscule, me semble-t-il, aux Sétantras quand on parle des Sétantras en tant que peuple. Et du coup, ça, pour Classis, qui justement les considère comme une vraie culture à part et pas comme la civilisation sétantriesque, simiesque, etc.
Hoffman, je crois.
Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Sétantra.
Oui,
et donc,
voilà.
Coup, c'est
confusant. Il y a ça, le personnage Sétantra, puis il y a aussi le fait que quand on parle des hommes, on ne met pas une majuscule. Les Sétantras, c'est pas.
Si.
Ah si.
Ah oui.
Ah bah oui, parce que si. Ah.
Sinon, non, Fabien, s'il te plaît, t'énerve pas. C'est que sinon, on parle du genre de l'homme.
C'est pour ça que moi, je préfère parler d'humain et qu'il y a même des gens qui se.
D'accord. Mais à humain, tu mets une majuscule?
Non, parce que.
D'accord. Ok. Bah, alors, ok. Je reprends.
Parce que tu vois, en fait, il y a des gens qui parlent des droits de l'individu ou des droits de la personne.
Non, mais d'accord.
Les droits de l'homme.
En fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, Sétantra, c'est l'équivalent de humain. C'est c'est l'espèce.
Pareil.
D'accord.
Donc ça ne mérite
pas.
Après,
ça n'a pas. Il y a le même problème pour les Sélénites, me semble-t-il.
Oh, mais ça, c'est pas une espèce. Les Sélénites, c'est.
L'arrivée à la cité de l'eau, un Indien un peu dérangé qui a créé le globe le Varia, la Varia, pardon. Il y a un I minuscule à Indien et là, c'est bon. Celle-là, c'est sûr que c'est une faute de français. Mais du coup, moi, je trouvais que c'était intéressant pour les Sétantras justement où il y a ce débat. Espèce ou
tout à fait
être conscient ou pas quoi.
Ouais c'est ça
ouais c'est intéressant
et est-ce c'est qu'on en met au myriadien aussi
c'est dingue parce que tu vois quand on apprend l'orthographe on se dit toujours que c'est chiant à mourir que ça sert à rien que c'est la science des imbéciles. Moi, j'ai entendu ça. L'orthographe, c'est la science des imbéciles. Mais quand on voit Natacha nous commenter un bouquin par le biais de l'orthographe, on s'aperçoit qu'en fait, l'orthographe, c'est également une gamme sur laquelle on peut agir pour exprimer du sens.
Oui. Ça, c'est... Je ne vais pas venir dire ça à mes élèves à la rentrée.
Mais seulement quand on la maîtrise.
Et voilà, absolument. Seulement quand on la maîtrise.
Ce qui est aussi, c'est que moi, je me souviens de mes années de collège et de lycée.
Pas comme moi, quoi.
C'est vraiment pas les questions que j'avais devant
non.
moi.
Non, oui, bien sûr. Non, non,
oui,
mais
c'était mal dans ma peau. Je voulais sortir avec quelqu'un. Puis, c'était vraiment toutes les. Et je me demandais ce que j'allais faire jouer le samedi suivant. C'était toutes les questions que je me posais.
Bah justement, t'aurais pu faire tes choix par rapport à l'orthographe.
Ouais, effectivement.
Sur la chaîne causale et le déterminisme. Jusqu'à quel point les bugs ne sont-ils pas déterminés ? Puisque si le MJ doit choisir ses bugs et que le MJ est déterminé à faire jouer sens, ça veut dire que les bugs sont déterminés.
Absolument. Et c'est une affaire de quelle chaîne on parle. Dans sens, tu as deux chaînes causales. Tu as une chaîne causale du monde décrit par le MJ et tu as une chaîne causale de la volonté des bugs. Et ça, c'est bien abordé dans Sens Néant. On explique que justement, la liberté des bugs provient du fait que la chaîne causale de leur volonté est différente de la chaîne causale du monde dans lequel ils vivent. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire qu'il y a deux... Et tout ça à cause de quoi ? À cause de la fin de Sens Néant, on leur demande de prendre une décision sur tu vas à gauche ou tu vas à droite. Et ceux qui sont allés à gauche forment une première chaîne causale et ceux qui sont allés à droite forment une autre chaîne causale.
Mais attention dans tous les cas, aux répétitions, ou alors si c'est pas une répétition, c'est un très joli chiasme, mais un peu maladroit. Les fragiles, à l'origine ils étaient humains, début du paragraphe sur les fragiles, à la fin du paragraphe sur les fragiles étaient des humains à l'origine.
C'est quoi un chiasme ?
Alors, oui, excusez-moi, donc encore des formations professionnelles.
Des verbes croisés.
C'est ça, c'est quand on croise des éléments d'une phrase.
Donc, d'accord.
À l'origine, ils étaient des humains.
Il y a une symétrie centrale.
Voilà,
ça,
à l'origine se retrouve en fin de phrase dans la phrase suivante.
Ça a du style quand même.
C'est élégant à connaître. Voilà.
Si c'était voulu, ce serait encore mieux.
C'est ce que je craignais en lui.
Non, non, alors là, c'est pas un chiasme, c'est une petite ture. Hein. Ouais, d'accord.
J'aime beaucoup l'illustration de Classis, j'en profite.
Le balayeur. Le fou.
J'ai mis en. Enfin, sur donc là, on est. Je suis dans le appart. Enfin, je pense la. Ah non, c'est pas ça. Est-ce que c'est la partie écrite par ce. Non, pas encore. Je pense donc un commentaire de Solipsis sur Classis, où elle dit que les résistants. Enfin, à terme, les immortels devront cesser d'influencer les hommes. Ce qui explique, du coup, pourquoi elle ne parle pas de Classis. Elle garde les informations qu'elle connaît pour elle, etc. Voilà. Donc j'avais trouvé ça intéressant, c'est une explication qui peut être trouvée peut-être à un moment donné ou à un autre par les bugs.
Voilà. J'aimerais bien qu'ils comprennent le personnage comme ça. Le problème, c'est que quand on étudie le cas Solipsis, de fait, ce n'est pas le cas. Les gens ne comprennent pas Solipsis.
Ouais, les habitudes rôlistes.
Ouais.
Alors ça, j'aimerais bien que vous...
On ne cesse de les expliquer dans
le grand méchant...
C'est le commanditaire.
Alors, pas forcément le commanditaire, mais ça va être un PNJ du scénario, qui est un PNJ important en général, et qui va mentir éhontément au personnage. C'est normal, c'est dans ses intérêts au personnage, parce que c'est le grand méchant, il n'a pas envie de se faire tailler par le groupe d'aventuriers qui vient d'arriver en ville. Du coup, il y a toujours ce moment dans le scénario où les joueurs arrivent devant le méchant, le confrontent, et là ils font « Oui, effectivement, je vous ai bien manipulé. »
Alors que ce n'est pas le cas de Solipsis. Donc.
Alors que ce n'est pas le cas de Solipsis. Ça a tous les ingrédients classiques. Alors la nuance, c'est qu'elle, elle dit qu'elle cache des choses. Ce qui est un petit peu effronté comme attitude.
Je vous cache des choses. Voilà. Et je le fais exprès et sciemment pour vous laisser libre de découvrir les choses et de les interpréter. Ouais. La crainte de Solipsis, c'est que comme elle a une influence maternelle sur eux, si elle leur dit blanc ou si elle leur dit noir, elle a peur que les joueurs se disent tous bah, c'est noir parce qu'elle nous l'a dit. Et or, ce qu'elle veut, elle, c'est que chacun se fasse sa propre opinion et que chacun voit gris. Peut-être. Ou pas.
D'accord.
Oui, enfin moi j'ai toujours, de toute façon j'ai toujours dit que, alors je sais pas si c'est parce que j'étais débutante quand j'ai découvert Solipsis, mais moi j'ai toujours dit que je voyais de la fesse de cette façon-là, puis j'étais aussi un, alors tu vois, toi c'est Saint-Seiya, moi c'est Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux, là c'était Harry Potter. Enfin j'ai vraiment vu, enfin pour moi c'est c'était Dumbledore version femme, quoi. Mmh. Et enfin.
Ben, moi, je connais pas très très bien Harry Potter, hein, dans la mesure où j'avais commencé à lire quelques bouquins, je me suis assez rapidement arrêté. Par contre, j'ai regardé des films avec grand intérêt. Et quand j'ai vu le personnage de Dumbledore, oui, d'accord, peut-être, mais quand j'ai vu le personnage de Dumbledore, en tout cas au cinéma, je me suis aperçu effectivement qu'il a. C'est exactement ça. Et bon, bref, faut pas que j'en dise trop.
La nuance, c'est que Dumbledore ne dit pas à Harry qu'il lui ment.
Ah oui.
Il lui dit pas qu'il lui ment, mais il lui dit explicitement qu'il ne lui dit pas tout. Après... Il ne lui dit pas tout. Il lui dit.
C'est clair.
Attendez, si on s'intéresse un peu à des structures d'histoire qui reviennent souvent, oui. notamment le héros mille visages de Joseph Campbell, il y a toujours un personnage qui est là pour faire le passage et qui cache des choses. Typiquement, c'est Obi-Wan Kenobi dans Star Wars, Merlin, enfin. C'est souvent des vieux à barbe.
Pour une fois, c'est une femme. Quand on est immortel, on n'a pas de
avec
barbe.
Avec son ellipsis.
Elle a pas de barbe.
Mais elle est vieille quand même.
Elle est vieille, mais c'est une femme.
C'est effectivement.
Toujours le parallèle entre machine et livre. Miphos n'a pas les yeux partout sur les écrans. Oui, effectivement, le lecteur non plus. Mmh. Et l'auteur non plus. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, voilà,
D'ailleurs, il y a même carrément un endroit, je ne sais plus si c'est dans Sens Mort ou dans Sens Renaissance, où les ordinateurs sont comparés à un livre que l'on lit.
D'ailleurs,
oui, bien sûr, oui.
Est-ce que ça ne serait pas une très belle justification au fait que les machines ne connaissent pas le futur parce que le lecteur ne l'a pas encore lu ? Elle le calcule, dit Miphos, mais non, elle le lise peut-être.
Ouais, mais c'est bon, il me semble que là, c'est même pas ambigu. Limite, c'est presque trop explicite dans certains passages.
Vous me perdez un peu quand même. Hein. J'avoue, moi, pour
n'étant
pas un super spécialiste de sens. J'espère que les auditeurs y retrouveront leur compte.
Une double page que tu as dû écrire en étant très fatigué. J'ai sorti mon pistolet laser et ou mon lance plasma, je sais pas.
Les scuds viennent de partir. Quoi. Vas-y, fais-moi mal.
Donc, Finn Longfinger débarquant et disant à Maria Gridway, le corps de Finn Longfinger est ici, jeune dame. Si jeune dame, ça fait très téléphoné. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment un décalage complet.
Alors.
Ça pourrait pas être mademoiselle ou
jeune.
Ou madame. Oui, bon, madame. Ça, je la parole, c'est le débat. Mais...
Alors, le truc, c'est que ça vient de Metroid. C'est très... Ah non, mais il y a des références partout. Hein. C'est bourré de références jeux vidéo. T'en as plein la gueule. Le jeune dame vient de Metroid. C'est le...
Donc, je n'étais pas fatigué en écrivant
les pages. C'est le commandant et celui qui donne ses ordres à Samus lorsqu'elle est jeune, lorsqu'elle est une jeune chasseuse de primes, qui l'appelle comme ça. Et en fait, j'avais envie de faire en sorte que Finn Longfinger et Maria Gridway aient cette même relation un peu... en gros, qu'elle soit un peu comme sa fille, quoi. Et que ce soit le jeune dame, ce soit... Mais bon, du coup, c'est une référence à Metroid à travers sens, c'est très bizarre, pas justifié.
Ouais. Même si c'est pas dit, je la considère presque comme une des filles adoptives.
Voilà, pareil, voilà, c'est ça. Et le jeune dame, en fait, vient d'une espèce de complicité et en même temps une distance. C'est-à-dire que ça donne entre eux deux. Et c'est tout le problème de Maria. C'est qu'ils sont suffisamment complices pour qu'elle soit amoureuse, mais lui, il est suffisamment distant pour que ça pose problème. Et il est suffisamment papa pour que lui, il voit ça comme un inceste, alors qu'elle le considère plutôt comme un mentor et voudrait que ça aille plus loin.
Je trouve intéressant de faire une note. Il y a souvent cette facilité de dire mon prof de collège ou mon prof de français de lycée, on prenait un texte et il surinterprétait tout à l'infini. Pardon, mais je trouve vraiment, vraiment que c'est une remarque d'imbécile fini, dans la mesure où, voilà, on a l'exemple, entre guillemets, naïf, de Romaric qui a bien réfléchi chacun de ses mots vraiment à fond.
En même temps, j'ai pas eu le choix.
On peut être intéressé ou pas par les références qui se cachent derrière, mais... ces références, elles existent. Ouais. Donc, c'est pas surinterpréter un texte que de prêter beaucoup d'attention à l'auteur. C'est plutôt rendre hommage à l'auteur et le croire particulièrement réflexif.
Et pour être très précis,
travaillant son texte.
Cette référence aux jeunes dames sera présente dans Metroid 4 sur Game Boy Advance, qui est, si vous regardez les dates, sorti pas très longtemps avant Sens Renaissance. Voilà. Donc tu vois, j'apporte les preuves. Mais et voilà. Et ouais. Bref.
Même page. Filmfinger dépose un baiser sur le crâne de Solipsis.
C'est bizarre ça.
T'aurais pas pu dire le front.
Je sais pas.
Ça aurait été tellement plus.
Mais je croyais que c'était ce que j'avais dit.
J'allais dire romantique, bon, ça fait un peu fleur bleue, mais ça aurait été tellement.
En même temps,
plus...
c'est un esprit animé ou manga, donc bon, faut y aller au romantisme aussi, faut pas hésiter.
Ouais. C'est...
Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il y a pas un moment donné dans Sens Mort où c'est corrigé, tu sais, où il l'embrasse sur le front cette fois-ci.
Peut-être. Mmh. Oui, lorsque ça me dit quelque chose.
Après le départ
dans
de.
Dans Sens Mort. Oui. Après le début.
Oui.
Il me semble que dans Sens Mort, à un moment donné sur le vaisseau, ils ont une scène où Solipsis lui dit. Lui pose la question de savoir si ça va lui faire du mal de revenir sur la Lune et l'embrasse sur le front cette fois-ci, non plus sur le casque ou sur le caillou.
Parce que là, on a l'impression qu'elle a plus de cheveux. C'est...
On peut imaginer Solipsis sans cheveux. Hein. Moi, je le verrais très bien.
D'ailleurs, dans le caractère androgyne du personnage, c'est vrai qu'on pourrait l'imaginer comme ça, mais bon, c'est pas comme ça que je me l'imagine personnellement.
Et c'est pas comme ça que tu l'as décrite en plus.
Absolument, tout à fait.
Et enfin, toujours la même double page. Là, je n'accepte. Enfin, c'est vraiment. Enfin, ça m'a vraiment fait bizarre. Pourquoi nous avoir caché cela après un point d'exclamation, point d'interrogation, enfin avec un point d'exclamation, point d'interrogation après pourquoi ? Pourquoi nous avoir caché cela ? Tu vois ? Ça fait vraiment très bizarre.
Effectivement. Dit comme ça, ça fait bizarre. Je voulais montrer par ce point d'exclamation le caractère énervé du personnage en fait. Et pourquoi nous avoir caché ça ? T'as un petit côté. Mais bon, c'est raté.
Il faudrait que tu fasses à l'espagnol.
À l'espagnol ?
Ouais, les espagnols, ils ont, tout comme nous, on ouvre les guillemets, on les ferme, ils ouvrent les points d'exclamation, ils les ferment. Mmh. Donc tu peux noter la zone de texte qui est en exclamation.
D'accord.
Pareil pour les points d'interrogation. C'est les symboles à l'envers, c'est le point d'interrogation.
Oui,
la
bien sûr.
Bas,
ouais.
Je suggérais que ce soit lu plutôt qu'écrit, mais ça c'est un autre débat.
Oui, tu pourrais en faire un livre audio.
Ça, effectivement, des effets de style que tu pourrais faire passer plus facilement.
Donc, un premier parallèle entre Miphos et le lecteur. Le rapport de Solipsis. Solipsis s'adresse directement à Miphos, comme elle s'adresse d'ailleurs au lecteur. Donc, il y a un premier parallèle. Et c'est fait à deux reprises. Elle dit ces livres sont dangereux et toi, tu continues de les lire. Et le toit fait une référence au toit du début. Je trouve ça vraiment très intéressant. Par contre, elle se répète trop. J'ai marqué trop de répétition, tue la répétition, reformule ma grande. Il est pourtant des choses qu'il vaut mieux ignorer. Donc effectivement, c'est la grande phrase de Solipsis qui est très importante. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faudrait trouver une autre façon de le dire ou je sais pas. Mmh. Voilà. La rune de vie ne se meut pas vers la vie, elle se meut vers la mort. Très bien, d'où l'ordre des livres.
Absolument.
Voilà, bravo.
Et quand tu réfléchis bien, en fait, de Sens Renaissance à Sens Cosmos, c'est vraiment, ça va de pire en pire, quoi. Tu vas de la vie, puis à la mort, puis au néant, puis au cosmos. Le cosmos, l'ordre, c'est ce qui reste quand il n'y a plus rien d'autre, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quelque part, c'est...
Ça, c'est une vision de métaphysicien, logicien, parce que
ouais.
Pour moi, l'ordre est fondamentalement un construit humain. Donc,
d'accord, oui.
Enfin,
en même temps, voilà.
Et quand on aura détruit le cosmos, il ne restera que le chaos, c'est ça.
Et après la création, la métaphore tient plus.
On repart de... On recommence.
Si, ce sera au joueur de créer complètement et entièrement. La création, ce sera un livre blanc, en fait.
Ça se justifiera. En tout cas, c'est ce que je peux dire. Puis après, voilà, après le choix de la Renaissance annonce une boucle, évidemment. Enfin, il semble que ça annonce une boucle dans l'univers de Sens. Allez, on a déjà bien avancé sur Sens Renaissance. Je pense que on va faire... Vas-y, je t'en prie, Natacha, prends ton temps. C'est juste que ce que je veux dire et annoncer, c'est qu'on va on va probablement couper ce podcast après Sens Renaissance. On avait dit qu'on ferait les trois, mais je pense que c'était trop ambitieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ce podcast en deux parties. Je pense que Sens Renaissance, c'est le livre qui est le plus discutable à plein de niveaux. Je serais très... à l'aise pour dire que voilà, il est pas très très bon. Par contre, pour Sens Mort et Sens Néant, là, je pense avoir.
Tu vas
quand
te
même...
battre.
Ouais, je vais me battre. C'est ça, exactement. Ça,
ok, ça. Donc aux fin éditeurs, du premier round. Non.
Et encore Sens Mort, je pense qu'il y a encore des raisons de dire ouais, non, mais c'est bon, quoi. C'est vrai.
Tu
c'est...
concèdes deux rounds.
Mais par contre, Sens Néant, je le tiendrai parce que vraiment, j'en ai chié. Donc je pense, ouais, je pense que je vais. On fera ça en deux rounds. T'es d'accord, Natacha?
Oui, bien sûr, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Et dites-moi si je pinaille ou si je fais trop.
Ah non.
Moi, j'ai tout dit quand j'ai parlé de l'exégèse. Du moment où on prendra nos jeux au sérieux, on pinaillera à fond et nos jeux prendront une dimension complètement autre. Le jour où on considérera Romaric Briand comme on considère Proust, on aura la même exigence pour l'un que pour l'autre. Proust n'aura plus qu'à faire bien attention à lui.
Une chose dont je ne me rappelais pas et qui me resurprend à nouveau... sur la resplioïde, donc là je suis dans l'appendice sur le système.
Ouais.
Sur la resplioïde, les personnages ne pourront donc pas créer eux-mêmes leur matériel en philonite, il surgira de lui-même miraculeusement. Le maître de jeu réalisera le souhait du joueur en créant lui-même le matériel qui surgira de la resplioïde de son personnage.
Ouais. C'est mal exprimé ça.
Ouais. Ouais, du coup j'ai du mal à comprendre. C'est une manière de... Enfin, j'ai même du mal à le formuler, tu vois. Ouais. C'est...
Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que le joueur, le personnage, doit avoir l'impression que la... En fait, je pense que la confusion, elle vient du personnage du joueur.
Ça. D'accord, ok.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le joueur décide de son amélioration. Le meneur de jeu décrit au personnage comment celle-ci apparaît spontanément, etc. Voilà, c'est ça.
D'accord, c'est un peu comme la différence entre ce que le joueur sait du fait de cellulite et ce que le personnage en sait.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça. Et là, ici, c'est très mal formulé.
Il me semblait que ces améliorations, c'était. J'allais dire finalement.
Solipsis.
Finger, c'est Solipsis qui les inclut.
Alors, il y a deux.
Est-ce que l'idée, c'est de. Que le MJ cache le fait que ces améliorations apparaissent spontanément,
ouais,
en
non,
disant que c'est Solipsis qui les met.
Je crois qu'il y a deux solutions proposées dans la base et que là, Natacha vient de nous en donner l'une des deux. D'accord. Énoncées. Première, c'est que c'est Solipsis qui améliore les armures. C'est celle que, par exemple, si on cite des gens par exemple, qui font ça, c'est ce que fait Cédric, c'est ce que fait Shadow, typiquement. C'est ce que tu fais aussi, ouais. D'accord. Tu interviens avec Solipsis. Et sinon, il y a la spontanéité. Ça, c'est par exemple des gens comme Thomas, des gens comme Flavie. Et même des gens comme moi aussi, lorsqu'ils sont amenés à refaire les livres et la campagne.
Oui, mais quand on les refait, ouais.
Ouais, voilà,
pour moi, l'aspect solipsise, l'aimer, c'est important au début.
Ouais.
Donc, sinon, c'est qu'en fait, c'est déjà présent dans la resploïde.
En fait, c'est l'armure, ouais, qui fait ça toute seule.
Ouais.
Ok.
C'est quoi enfin cette respiration?
Tant.
Oui, je sais que tu.
C'est ça.
Non, mais je sais que tu peux pas répondre, mais c'est vrai que ça m'a fait rire parce que du coup j'ai mis des gros points d'interrogation à côté. Quand j'ai posé la question à Adrien, il m'a fait ah, tu verras. Et voilà, c'est.
Parce que tu.
Bah oui.
Je te l'avais dit avant.
Ouais.
Oh merde.
C'est pas grave.
Tu l'as pas découvert en playtestant Sens Cosmo?
Non, mais en même temps tu nous l'as balancé tellement vite. Putain. Que du coup il n'y avait pas de.
Oh là là.
Bah ouais, mais je sais beaucoup. Hein.
Ouais, non,
beaucoup,
mais tant mieux. Natacha.
Alors, j'ai découvert, et en tant que. Enfin, mon personnage aurait été très frustré et très triste d'apprendre ça aussi, et enfin, je pense que du coup, on peut considérer que le personnage l'a découvert. Les lampes de Pôle Sud sont éteintes la nuit pour garantir le couvre-feu de Pôle Sud. Oh mon dieu, ça se passe comme ça aussi sur Séléné. C'est terrible. Séléné envahit Pôle Sud.
Il y a juste un truc qui me. En t'écoutant, là, il y a un truc que je tilte. Le pôle Sud, c'est pas censé être des cavernes sous la mer?
Oui.
Si.
Mais alors, on s'en fout qu'il y ait un couvre-feu. On n'a pas besoin de couvre-feu.
Oui, on s'en fout. C'est pour ça que moi, je l'ai jamais fait.
Parce qu'un couvre-feu, en général, alors, dans ces cas-là, t'éteins les lampes pour éviter des bombardements. Enfin, quand t'es dans des cavernes sous la glace, dans un endroit où personne vient te chercher.
Tu peux trouver d'autres justifications au couvre-feu, des économies d'énergie.
Ouais.
Qui est tout bête, hein, mais quand t'habites.
La sécurité interne, ok.
La sécurité interne, voilà.
En fait, le point essentiel, c'est que comme ils sont sous la terre, ils n'ont pas de repères pour le jour et la nuit. Donc le couvre-feu, c'est l'annonce de la nuit, en fait. Voilà.
Ce qui fait penser qu'en tant que MJ, je trouve que c'est important de faire jouer la première sortie à la surface des bugs, doit être quand même très importante pour les personnages. Et t'as pas vraiment forcément le temps. Là, le dernier one shot qu'on a fait avec des amis à moi, on l'a pas fait jouer d'ailleurs à mes joueurs en colo.
Je me souviens que.
Mais ça doit être vraiment marquant pour un personnage de.
En même temps, sur une première partie qui est en one shot, si on prend du temps pour les armures, si on prend du temps pour le BG, si on prend du temps pour présenter le conseil, si on prend du temps pour présenter l'ombre monde. Si on prend du temps pour présenter l'extérieur, eh ben le scénario s'arrête.
Non, mais je crois que.
Donc, ça fait partie des sacrifices qu'il faut faire.
Alors, nous, ça avait été un moment très, très fort, avec notamment la phrase qui apparaît pour la première fois lorsque les bugs sortent. Il y a cette porte.
Qui est là et vue dans la cinématique d'intro, en fait.
Voilà, d'accord, ok. Avec écrit.
Le monde portait notre poids, et aujourd'hui c'est nous qui portons le poids du monde sur nos épaules.
Voilà, c'est ça, la phrase de Gladius.
J'ai beaucoup ri quand j'ai vu que les MST dirigeaient Berlin.
C'est
Menter, les Sauragol et les Tiganis.
Voilà, ce sont les trois familles nobles qui.
Ces noms que je connais même plus.
C'est un peu du Game of Thrones Berlin.
Ça faisait un peu ça, ouais.
Jeremy Change of Dimension.
Voilà, ça m'a fait beaucoup rire.
Il y a plein de jeux de mots comme ça partout, cachés partout.
Oui, alors. Je me suis beaucoup amusée en cherchant les petites choses qui étaient cachées, genre. Ah bah non, cherchez vous-même, MJ.
Cherchez vous-même.
Mais voilà, les petits codes. Et j'ai toujours pas trouvé celui des notes en dessous des mots, pas en exposant, mais en.
Et ça, je crois que personne n'a trouvé. Hein.
Ouais, et je pense que du coup, ça viendra plus tard. Mais...
Alors, je vous jure, si je vous disais le truc, c'est une simplicité.
J'ai essayé de. J'ai pas essayé de combiner les trois parce que j'ai trouvé dans les trois.
C'est marrant parce que moi c'est vraiment le genre
de code.
Je pensais
qu'il. Je sais plus où est-ce que c'est dans le livre, mais il y a des fois où il y a des petits passages sur 10 mots. En dessous de chaque mot, il y a un nombre écrit.
Ah oui, exact.
Et ça arrive plusieurs fois dans chacun des bouquins. Je crois que c'est dans chacun des bouquins. Je connais personne qui ait compris.
Il y a notamment une énigme sur les noms des cartes magiques pour les magiciens.
Il y a plein de noms
de cartes magiques dans ce sens qui sont cachés. C'est tout ce que j'ai à dire.
Mais qui sont cachés comme ça avec ces petits codes chiffrés.
Non.
Mon client n'en dira pas plus. Reculez.
Merci Fabien.
Attends, t'es le juge. Comment ça, c'est ton client?
Je croyais que c'était un procès à rebondissement.
Ah oui, merde. Ah ben monsieur le juge, je vous accuse d'être partial.
Eh ben, ça tombe bien, c'est moi le juge.
Pas pour ce jugement.
Je rebondis là, ça me fait penser que. Oui, je rebondis sur ma chaise.
On est en train de sauter sur notre chaise.
Hein.
Voilà.
C'est
très drôle.
Non, c'est drôle.
Non, c'est très drôle.
Non, c'est drôle.
Adrien n'a jamais appris à parler français, le pauvre. Il vient d'un pays étranger où on dit mal pour coffre, poche pour sac, tout ça.
Comment t'es en train de te dire?
Je vous emmerde.
Heureusement, il y a beaucoup de chambres à la baronnie.
Heureusement, ouais.
Alors, Natacha, vas-y, je sens. T'empêche de rebondir.
Là où c'était intéressant aussi de lire. Là où c'était intéressant de lire les bouquins par rapport à quand j'ai joué, c'est qu'il y a beaucoup de choses que Adrien interprète différemment. La grosse différence, je pense, c'est sur. L'aspect technologique de l'univers, où nous, il nous l'a fait jouer avec une technologie qui est à peine plus avancée que la nôtre actuellement. Mmh. Genre, on n'est pas à la fusée Ariane, mais juste un tout petit peu plus au-dessus.
Ouais.
Et alors que c'est pas
Notamment, on a des téléphones de l'espace, les iPhones, pas iPhone, mais des équivalents.
Alors que c'est pas du tout la même, la façon dont tu sembles l'avoir décrit avec les Sub-Zeris. À aucun moment, Adrien n'a parlé de Sub-Zeris qui sont les sous-marins, me semble-t-il, c'est ça.
Absolument,
il a toujours dit sous-marins, hélicoptères. Voilà.
Les mots comme ça ne me plaisent pas.
Ça
n'évoque rien en moi. C'est des mots qui chez vous ont un passif, mais chez moi, ça n'y a rien.
Je crois une fois, j'avais fait un scénario de sens pour faire découvrir des copains avec. De scénario que j'avais écrit moi-même. Et je parlais d'hélicoptères, je parlais des
sliptiques.
J'ai vraiment cru que t'allais dire des slips.
Mais c'est vrai, j'ai des copains qui me disent c'est pas possible, tu peux pas avoir des hélicoptères qui s'appellent des sliptiques, quoi. Des culottes tiques, c'est les plus petits. Et puis.
Je te parle même pas des string tiques, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment le truc d'infiltration. Tu te couperas, c'est le genre de conneries. Si
non.
Et puis donc, pour reparler de la différence technologique que moi je le fais jouer, c'est qu'en gros, il y a deux éléments qui me semblent contradictoires dans ce sens, c'est que ils sont censés ne pas avoir de papier, et que si t'as pas des ordinateurs, bah tu peux pas stocker de l'information. Et la résistance, ils sont censés avoir de l'information pour avoir des plans, pour s'échanger des du courrier.
Il me semble quand même que c'est dit qu'il y a des ordinateurs, mais sous MS-DOS, quoi.
Oui, effectivement, oui. Mais bon, enfin,
ça va poser problème
mais
pour
du
le
coup, la
Minitel.
En fait, la technologie MS-DOS me semble contradictoire avec certains, enfin, avec la quantité de données qu'ils peuvent avoir stockées, parce que par exemple, Solipsis aura voulu sauvegarder des livres, des machins. Et sur ce genre de trucs, enfin.
Ah ouais, la preuve, elle n'a que le Tractatus et je ne sais plus quoi. Elle a trois livres.
Elle l'a.
Alors, le fait qu'il n'ait pas des ordinateurs très avancés et qu'il n'ait pas un truc du genre Internet pose problème avec le seul scénario que j'ai écrit.
C'est pas grave, hein. Tu peux créer un intranet.
Ouais.
La technologie, c'est. Enfin,
de toute façon, c'est.
Il y a une couleur liée à la Seconde Guerre mondiale et à Alien 1 et au film futuriste des années 80. Et j'adorais, moi, tous ces écrans verts, ces vaisseaux vrombissants, j'ai toujours trouvé
ces
ça
super
cool.
Ces grandes armoires de métal
cool.
Avec des lumières qui clignotent de toutes les couleurs.
Oui, trop bien. C'est génial. Et des moustaches. Dans Star Wars,
tu
dans
l'as
Star
pas
Wars
dit,
4.
Hein. Là, tu l'as pas mis, je suis désolé, t'as pas mis que c'est un... Bah, t'aurais pu mettre au niveau de la création de l'armure, par exemple, la création de la moustache, avec des choix de forme de moustache.
Mais vu que
j'ai respecté ton code...
Il me semblait quand même que vu que Star Wars 4 est cité en référence, la moustache s'impose. Ça me semblait évident. Et puis il me semble quand même que je décris Gladius
Sword. Une moustache importante.
Gladius Sword, il a la moustache.
Ah bon ?
Il a la barbe.
Ah non, je suis déçu. Ah oui, il a une barbe.
Et Classis, il a la moustache de. Il a une tête à moitié à la René Descartes.
Ah bon ?
Bah non. C'est
pas
décrit. Mifo,
ça des rouflaquettes.
C'est pas décrit ça, non ?
Non, pour moi, Classis, il a la coupe au carré, comme tu décris comme un égyptien. Du coup, pour moi, il est glabre en fait.
Ah d'accord, ok.
Enfin, pas forcément glabre.
Je crois que c'était
soit soit il se rase, soit il a pas de poils quoi. Mais
moi c'est Bran Oberon que je vois, tu sais, comme avec les moustaches qui rejoignent les tempes,
ah ouais
comme les généraux prussiens.
Nicolas II quoi.
Ouais, voilà. Oui c'est ça.
Nicolas II.
Pour moi je le vois vraiment glabre en fait, vraiment. Parce qu'en fait je le vois plus enfant. Il a commencé à paraître présenté de l'enfant providentiel et du coup pour moi il est resté de l'enfant empereur quelque part.
Classis est toujours là, même quand il n'écrit pas selon sa typographie particulière. Dans le sens, c'est l'intention qui compte. Voilà, citation de toujours du conseil de jeu, de l'aide de jeu. Voilà.
À la table des matières.
Et je n'ai rien corrigé, je crois. Il y a juste. C'était la table des matières.
Un petit effet de style, peut-être, non ?
Non. J'ai remarqué un truc dans la table des matières de néant, que tu pourras m'expliquer, c'est justifié, soit.
Soit au contraire, ce sera la claque. Vas-y, raconte.
Allez,
c'est
tout
pour
suite,
la partie 3.
Tout de suite, rapidement, ouais. Du coup, avant de finir le podcast.
On parle de ta mémoire.
Tu passes du grand 3 au grand 5, me semble-t-il, ou un truc du genre.
Il y a un secret
alors,
derrière.
Tu sais, oui, c'est ça. Ouais, maintenant, à force, j'en étais à la fin des 3, quoi. Et je me disais, ça y est, il y a encore un code caché. Il manque un chapitre. C'est encore un chapitre mis entre crochets par Classis.
C'est vrai, ça. Il y a un 3.
Ouais, attends, je retrouve.
Bah, c'est pas intentionnel, hein. Comme vous pouvez le constater.
Ah, je suis déçue.
Pas intentionnel.
On passe effectivement, ouais, c'est ça, du grand 3 au grand 5, au fil de la partie à conseil pour moi-même.
Oula.
Il en manque un grand 4 à avertissement, peut-être.
C'est comme l'album de Gaston Lagaffe qui a jamais été écrit. Il y a un chapitre de Sens Néant qu'il faudra.
Ouais, carrément. C'est...
Ouais,
ou le Megaman 10.
Il y a des œuvres artistiques comme ça où il manque des chapitres.
Ah putain, c'est dingue ça. Ah, c'est une erreur. Ah bah non, mais c'est, tu sais quoi, c'est une erreur, c'est un 1 qui manque. C'est un 1 qui manque, c'est un 4 en fait.
D'accord.
Ouais. Codex.
Ah, ouais, effectivement, ouais.
Codex Serafinianus.
Tu le fais pas comme le Codex Serafinianus où tout est codé, mais des gens ont réussi à déchiffrer au moins les chiffres et il manque un chapitre dans cette œuvre.
Uh-huh.
Ah, tu ne la joues pas comme ça.
Non, non, là il manque un 1 en fait au bout du okay. Téléphone. Ouais, voilà, c'est tout.
Ce n'est pas un secret que j'aurais découvert.
Mais en fait, si tu regardes tous les 1 qui manquent, ça donne un code en 1 et en 0. Et en fait, si tu le mets ensuite.
En fait, sans, c'est en binaire.
Voilà. Oh non!
Si tu vas
c'est
sur un
vrai.
Site sur internet, que tu rentres le 3e chapitre de Dogs in the Vineyard. Bon, allez, on va arrêter l'exégèse et la paranoïa.
Ouais.
On aura un deuxième round.
J'espère ne pas avoir été trop désagréable.
Encore une fois, c'est un grand hommage à mon avis que tu rends à Sens en prenant l'œuvre extrêmement au sérieux.
Donc, je suis d'accord.
Merci Natacha.
Alors, sachant que j'imagine qu'il y a encore plein de remarques que tu n'as pas faites ou que tu n'as pas eu le temps de
Moi
j'aime bien ce podcast qui défile un peu des notes.
Plein de trucs au final.
Ouais, j'aime bien.
Moi j'ai appris des trucs aussi. Bon, en fait, je suis pas un grand spécialiste de Sens, donc c'est encore différent. Mais... Allez.
Eh bien écoute, le jury va se retirer pour délibérer sur ce premier.
On va lever la séance.
Je pense que le deuxième trimestre sera déterminant.
Allez, portez-vous bien et jouez bien surtout.
À la prochaine.
À une prochaine.